Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Pagaille sur les rails ce matin, conséquence des orages. Il y a de nombreux retards sur la ligne Toulouse-Paris dans la Loire. C'est une tornade qui a surpris les habitants. Les dégâts sont nombreux. Les fouilles vont reprendre ce matin dans le Tarn après la découverte de premiers ossements. Hier, ce pourrait être ceux de Delphine Jubilard, dont le mari, Cédric Jubilard, a reconnu le crime. Et quel nom de famille avez-vous donné à votre enfant si le nom paternel reste monnaie courante? De plus en plus de parents font le choix d'un nom composé.
Plus de 140 000 éclairs recensés hier en France.
Des orages qui ont encore une fois balayé une bonne partie du pays, l'Alsace, l'Isère ou encore la Loire, où 8 000 foyers étaient privés d'électricité. Hier soir, les dégâts sont nombreux, conséquences de la pluie, du vent, de la grêle, mais aussi une tornade qui a tout balayé sur son passage au Villars, au nord de Saint-Étienne. Philippine Boulet.
La tornade, Seigneur.
Face aux rafales, la voiture de Mathis tremble.
Ça faisait des tourbillons et c'était vraiment, vraiment très, très local. Et c'est surtout à la puissance que ça avait, que ça arrachait les panneaux, que ça a coupé un arbre en deux.
Au point de tout emporter.
Ça enlevait le bardage de l'Intermarché qui était juste à côté. Ça a couché deux poids lourds sur l'autoroute juste au-dessus.
Joris habite à Villars, commune traversée par la tornade. Après son passage, sa rue est méconnaissable.
Ça a arraché toutes les poubelles, ça les a toutes mises sur la route. Après, on a tout ce qui est feuilles, poussière ou même des détritus qu'on peut retrouver un peu de partout. Des tuiles qui ont fini sur la rue en bas de chez moi. J'ai des voisins qui ont eu des toitures arrachées.
C'est le cas d'Anne-Sophie, elle vit à quelques rues de là.
On se sent impuissant, tout notre extérieur est dévasté.
Le vent a emporté le toit de sa résidence.
Pour nous, c'était inenvisageable que le toit de notre bâtiment s'arrache. Il a même pas 2 ans. Le camion de mon mari, y a un bout de toiture sur le camion.
Tous les habitants de la résidence ont été relogés par la mairie, au moins pour la nuit dernière.
Des orages également dans le sud-ouest avec des conséquences sur les rails. La chute d'un arbre a provoqué l'interruption du trafic ferroviaire dans le Lot entre Gourdon et Souillac. Plusieurs heures de retard ce matin jusqu'à 6 heures sur les intercités entre Paris et Toulouse. La SNCF espère une reprise du trafic pour 9 heures.
Et on attend vos témoignages ce matin. 3216, le WhatsApp RMC, le 06 12 424 424. Est-ce que vous avez vécu ces orages chez vous? Est-ce qu'il y a des dégâts? On vous attend.
Et sur la route, il y aura du monde. Aujourd'hui, bison futé, voie rouge dans le sens des départs sur une bonne partie de l'est du pays. C'est orange partout ailleurs. Notez que l'autoroute A6, fermée depuis dimanche en raison de l'incendie de Fontainebleau, a été rouverte hier soir.
RMC 7h03, il reconnaît un acte abominable. Les regrets de Cédric Jubilard, passé aux aveux devant les juges.
Il a reconnu la mort de sa femme, disparue depuis décembre 2020 et dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Le peintre plaquiste a aussi délivré les lieux de là où il aurait déposé le corps, du côté de Mayoc, dans le Tarn. Des ossements y ont été retrouvés. Hier, on retrouve Jean-Wilfried Forquès sur place ce matin. Jean-Wilfried, les fouilles vont reprendre ce matin.
Oui, c'est ça, Thibaut. Les accès du sites sont fermés, surveillés par les gendarmes de Périgueux depuis hier. Les fouilles ont repris au lever du jour ce matin ici sur place. Il y a des médecins légistes, des biologistes et même un anthropologue sur le site, sur ce chantier qui a débuté hier après-midi. Des ossements ont été retrouvés, des ossements du corps de Delphine Jubilard, notamment deux fémurs. La police scientifique veut reconstituer dans les prochains jours la totalité du corps et pour cela, il faudra retrouver les ossements qui manifestement ont été dispersés. Les ossements doivent ensuite être analysés par des spécialistes de la police scientifique au siège de l'IRCGN à Pontoise. Il faut dire si c'est bien le corps évidemment de Delphine Jubilard, même si c'est son mari qui est venu indiquer le chemin aux enquêteurs hier matin ici même. Savoir si ce corps a subi des violences et éventuellement quel type de violence. Et puis petite nouveauté de taille, Thibaut. Petite nouveauté ici sur le chantier, sur ce site des fouilles. On a vu l'apparition ce matin d'une grue qui se trouve à 200 mètres de moi, une grue mobile. On n'en connaît pas vraiment pour l'instant l'utilité, mais si elle est là, c'est qu'elle doit servir.
Jean-Wilfried Forquès dans le Tarn pour RMC, ce rebondissement donc dans l'affaire Jubilard. Ces ossements retrouvés vont-ils parler? C'est en tout cas une nouvelle étape qui commence. On va y revenir juste après ce journal avec notamment l'avocate des enfants du couple Jubilard.
Sénateurs et députés s'accordent sur le projet de loi d'urgence agricole, un compromis sur un texte contesté, la faute à la réintroduction notamment de pesticides jusque-là interdits. Cela doit encore passer entre les mains de l'Assemblée nationale. Un vote ultime lundi à l'ambiance, Sonia Gobry s'annonce tendue.
Désastre écologique, horreur sanitaire, à gauche les qualificatifs ne manquent pas. Parmi les mesures crispantes, la réintroduction de deux insecticides interdits en France, le flupyradifurone et l'acétamipride, mais seulement si l'Agence nationale de sécurité sanitaire accorde une dérogation. Comme ça, la science décidera, défend un député LR. Garde-fou insuffisant, rétorque un écologiste. Alors dans cet hémicycle polarisé, les regards se braquent sur les députés du Bloc central, Horizon, Modem, Macroniste, droite et gauche, les sommes de se positionner. Franchement, lundi, leur vote sera décisif, mais le Bloc central est divisé et embarrassé par la question des pesticides. Feront-ils la politique de la chaise vide, s'interroge une insoumise, quand une députée socialiste met la pression. À 9 mois de la présidentielle, dit-elle, pas de place pour la lâcheté.
Sonia Gobry, service politique RMC. Louise et Gabriel restent les prénoms les plus donnés en 2025. L'INSEE vient de dévoiler son classement chez les filles. Jade et Ambre complètent le podium. Adèle et Alice font leur apparition dans le top 10. Chez les garçons, Noah et Léo sont deuxième et troisième.
Alors, il y a le choix du prénom, mais une fois que vous avez trouvé le prénom de votre enfant, il faut aussi s'accorder sur le nom de famille.
Celui du père, majoritaire dans 78% des cas, de la mère ou encore les deux. Un choix possible depuis 2005, préféré pour 15% des nouveau-nés en 2025, nous dit encore une fois l'INSEE. Chiffre qui ne cesse de progresser. Marion Gauthier a pu se rendre compte dans un jardin parisien.
Entre le bac à sable et la petite fontaine, Ludmila regarde ses deux enfants.
Leur père est albanais, donc ils sont franco-albanais. Qu'ils aient les deux noms et aussi les deux héritages et les deux cultures jusqu'au bout. Et comme ça, on a aussi le même nom de famille quand on voyage, vu que maintenant je suis divorcée.
Et sur le banc d'en face, derrière le toboggan, il y a Amine, ses trois enfants autour de lui.
Pour le nom de famille, naturellement, c'est venu celui du père.
Le vôtre.
Je pense par tradition. Pour moi, c'est pas une discussion liée à l'égalité femme-homme. Le salaire, les promotions, ça c'est beaucoup plus important qu'un nom de famille.
Et parfois, ce n'est pas un combat, juste une question de sonorité. Clémentine, vous avez choisi de ne garder pour vos enfants que le nom de votre compagnon à la vie.
Oui, c'est quand même assez léger. Chopin, c'est un peu plus... c'est plus franchouillard, donc je préférais.
Et une dernière question posée par Monica, d'origine mexicaine.
Quel pourcentage les sommes, il perd son nom pour prendre celui des femmes.
Votre mari, est-ce que vous pensez qu'il serait capable?
Je posais la question, la réponse était non. Voilà, donc c'est les noms de famille de mon côté et de mon mari.
En 2025, d'après l'INSEE, seulement 7% des nouveau-nés portent le nom de leur mère et la majorité d'entre eux ne sont pas reconnus par leur père.
La FIFA va se pencher sans doute après le mondial sur la banderole déployée par les joueurs argentins en marge de leur victoire mercredi face à l'Angleterre. Sur le bout de tissu, on pouvait lire « Les Malouines sont argentines », référence à ce territoire au cœur d'un litige territorial, d'une guerre entre les deux nations au début des années 80. Et l'affaire Nicolas Pelletier prend désormais une tournure diplomatique.
Oui, hier soir, le gouvernement britannique a officiellement demandé à la FIFA le lancement d'une enquête après le déploiement de cette banderole par plusieurs joueurs argentins sur la pelouse du stade d'Atlanta. Dans son règlement, la FIFA interdit les messages politiques dans les enceintes de la Coupe du Monde. Cette règle vaut aussi pour les joueurs. De son côté, le président argentin n'a pas défendu les joueurs de l'équipe nationale. Selon Javier Milei, les îles Malouines se récupèrent, je cite, avec une diplomatie avisée et non avec des gestes de patriotisme bon marché. La FIFA va attendre le rapport des officiels de la rencontre avant de réunir sa commission de discipline. Une sanction devrait tomber après le mondial contre les joueurs argentins qui ont brandi la banderole et contre la fédération argentine. Tous les joueurs de l'Albi Céleste sont donc disponibles pour la grande finale dimanche contre l'Espagne.
Et ce sera à vivre sur RMC. Ce sera à New York où l'air est extrêmement pollué, recouvert d'un épais brouillard en raison des incendies qui ravagent actuellement le Canada. Les Bleus jouent demain à Miami, 23h face à l'Angleterre dans ce que l'on appelle la petite finale. Autrement dit, le match pour la troisième place.
Thibaut Texer pour le journal. Il est 7h09 sur RMC et RMC Story. On part au 32-16. C'est Maxime qui est avec nous ce matin. Bonjour Maxime. Alors, est-ce qu'on vous entend, Maxime? On vous entend très bien, Maxime. Vous êtes agriculteur dans le Gers. C'est ce qui vous fait réagir. C'est donc cet accord entre députés et sénateurs sur le futur contenu du projet de loi agricole qui fait beaucoup débat puisqu'il s'agit d'assouplir les réglementations, notamment sur la question de l'eau. Comment ça se passe, la question de l'eau? On est en pleine période de sécheresse. On vit la canicule. Comment ça se passe pour vous, agriculteur?
C'est extrêmement compliqué. C'est très très difficile de voir ces cultures dépérir. Moi, j'ai donc de la vigne, j'ai un petit peu de maïs pour nourrir mes bêtes. J'ai du blé, les rendements ont été impactés aussi. C'est très compliqué. Les fourrages sont moindres et c'est très très difficile de voir dépérir ces cultures sous nos yeux sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et ensuite, ce qui m'a fait vous appeler. C'est surtout la première personne que vous faites réagir à l'antenne. un sujet agricole, c'est quelqu'un, un membre du parti écologiste, et ça, j'ai du mal à cerner vraiment des fois la pertinence de leurs propos.
Maxime, vous savez qu'on donne la parole à tout le monde sur RMC, et vous êtes là d'ailleurs pour répondre.
Les premiers concernés, c'est quand même les agriculteurs, non ? Dans ce genre de sujet.
La question de l'eau, elle est cruciale pour vous. On l'entend. Est-ce que vous en stockez de l'eau ? Est-ce que vous êtes autorisé à le faire ? Est-ce que vous aimeriez pouvoir le faire ?
Il y a quelques années de ça, on a voulu constituer une réserve.
Ouais.
Faire une sorte de barrage. Là, on est une région assez vallonnée. On a de la chance. On peut constituer. En fait, ce qu'on souhaiterait, c'est garder l'eau qui tombe en hiver naturellement, pour remonter celle qui est dans les rivières l'hiver, pour pouvoir la stocker et l'utiliser l'été. Mais ça n'a pas été possible à cause de cette écologie punitive, quoi. On est vraiment muselé par cette écologie punitive et c'est très compliqué.
Vous avez le sentiment qu'on est en train de vivre une, ou qu'on va vers une guerre de l'eau dans ce contexte de chaleur extrême et de sécheresse?
Moi, dans mon cas et dans ma région, je ne pense pas qu'on va vers une guerre de l'eau, mais juste il faut... Il faut être un peu intelligent et arrêter de se tirer des balles dans les pieds. Quand on peut la stocker l'hiver, il faut pouvoir la stocker l'hiver, si on en a besoin l'été. En fait, on est sur des années comme 2021, 2022, 2023 qui sont très humides et 2024, 2025 qui sont assez sèches. Et il faut pouvoir réagir à ces aléas quand ils arrivent. Donc... c'est pas tous les ans, hein. Il faut pas croire et je pense pas que ça va s'empirer.
Merci Maxime, merci pour votre témoignage et bon courage à vous. Maxime qui est agriculteur dans le Gers, ça vous fait réagir, bien sûr vous composez le 32-16, ce sera l'objet aussi du débat d'RMC entre notre voix de droite et notre voix de gauche tout à l'heure à 7h50. Il est 7h12.
RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h16, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Est-ce le début du dénouement 5 ans et demi après les faits, après les aveux devant ses avocats? Cédric Jubilard a indiqué où était enterré le corps de sa femme Delphine. Les fouilles menées depuis hier ont permis de retrouver des ossements. Bonjour Maître Malik Hashmani.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate des enfants du couple Jubilard, Louis et Elia. Ils ont 12 et 7 ans aujourd'hui. Vous allez nous dire ce que vous attendez maintenant de la suite de l'enquête. On retrouve d'abord Pierre Bazin dans le Tarn, sur place, sur les lieux des fouilles. Pierre Bazin, reporter police-justice RMC, à une dizaine de kilomètres de Cagnac-les-Mines. Les fouilles reprennent ce matin. Pierre, quelle est la suite des investigations? Qu'est-ce qu'on attend?
Eh bien, déjà, on sait que depuis hier, ce sont plus de 100 gendarmes qui sont mobilisés ici avec 7 experts de l'IRCGN. Vous savez, l'Institut de Recherche de la Gendarmerie Nationale. Il y a entre autres 5 équipes cynophiles qui sont mobilisées pour creuser, ratisser, chercher le moindre indice, le moindre ossement dans cette zone qui a été indiquée préalablement par Cédric Jubilard. Et ça se poursuit ce matin. On a vu passer, il y a quelques minutes, plusieurs fourgons banalisés de la gendarmerie, certainement des équipes scientifique. Et puis, il y a une grande grue qui a été installée dans la nuit, qui doit certainement servir pour effectuer certaines recherches. En ce moment, il y a donc des gendarmes qui s'activent. Même si on est tenu à bonne distance, on entend ces gendarmes qui sont au travail. On est loin de la zone. Pour vous décrire un peu l'espace autour de nous, il y a une route départementale passante tout près de cette zone de recherche avec tout autour de nous des étendues de champs. Et puis la zone de recherche précisément, elle se trouve au milieu d'un petit espace boisé.
C'est donc Cédric Jubilard qui a emmené les enquêteurs sur ces lieux. Qu'est-ce qu'il a dit aux enquêteurs ?
Eh bien écoutez, selon son avocat, Maître Debuisson, Cédric Jubilard a spontanément expliqué ce moment où il a tué son épouse, où il a déplacé le corps. C'est ce qu'il a dit aux magistrats qui l'ont entendu. Et c'est à cet endroit que donc les gendarmes effectuent ces recherches, que ces ossements ont été prélevés. Toujours selon son avocat, Cédric Jubilard a reconnu avoir commis, je cite, un acte abominable. S'il parle au bout de 5 ans et demi, toujours selon Maître Debuisson, c'est pour s'extirper, dit-il, de l'engrenage mensonger dans lequel il était. Précision, il explique également que c'est en pensant à ses enfants qu'il a décidé de parler. La question qui subsiste à l'heure actuelle, pourquoi avoir attendu si longtemps alors qu'il a eu d'autres occasions pour parler, notamment à l'occasion de son premier procès.
Merci beaucoup Pierre Bazin depuis le Tarn pour RMC. Malik Hachmani, je reviens vers vous. Vous êtes donc l'avocate de Louis et Elia, les deux enfants du couple Jubilard. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ils ont réagi en apprenant que le corps de leur mère a sans doute été retrouvé ?
Je pense que c'est compliqué, ils sont sous le choc. Je crois qu'il y a de la tristesse, je crois qu'il y a du soulagement et je crois qu'il y a de la colère en fait. Imaginez ces enfants avec une photo de leur mère, de chacun dans leur chambre, souriante, belle, pleine de vie. Et imaginez maintenant qu'on leur parle de ossements en fait. Voilà, donc c'est assez violent quand même.
Et malgré tout, c'est une étape importante, c'est le début d'une autre phase pour eux dans leur deuil, dans leur reconstruction.
Oui, je pense que c'était important. En tout cas, c'était une demande importante de Louis l'aîné. Il faut un corps, en fait, pour pouvoir faire un deuil. En tout cas, essayer de faire un deuil dans un contexte aussi difficile. Et je crois que c'est une étape importante, une étape préalable. Voilà, j'espère que ça va leur permettre d'avancer. Maintenant, ce qu'on attend aussi, c'est que Cédric Jubilard nous explique. En tout cas, j'ai pas lu ses dépositions. Au moment où je vous parle, il doit des explications aux victimes et en premier lieu à ses enfants.
Alors justement, vous lui aviez demandé lors d'une audience il y a un mois, vous lui aviez parlé par écran interposé. Il participait à une audience en visio à ce moment-là. Et vous lui aviez parlé au nom de son fils Louis, en lui disant « Louis attend le corps de sa mère ». Est-ce que vous pensez que cette conversation que vous avez eue avec lui a pu jouer ?
Mais je l'espère, ça voudrait dire qu'en fait il a été ému par la demande de son fils en fait. Oui, j'espère que ça a provoqué une réaction à ce moment-là. Très honnêtement, cela n'a pas été visible.
Sur le moment, il n'a pas réagi ?
Non, il n'a pas réagi, il n'a rien dit.
Mais de fait, quelques semaines plus tard, il y a eu cette lettre, dans un premier temps, les aveux devant ses avocats, et puis ses aveux désormais réitérés devant les juges, avec ses regrets qu'il exprime, ses regrets et ce geste qu'il reconnaît, ce geste qu'il qualifie lui-même d'abominable. Vous y croyez, à ses regrets ? Comment est-ce que vous réagissez ? Vous le croyez sincère ?
Alors... Très honnêtement, forcément, il y a une intériorité de 5 ans et demi où il s'est amuré dans le mensonge. Donc, c'est compliqué de partir de zéro. Moi, j'attends de voir. Je n'ai pas le recul. Je n'ai pas ses déclarations. Moi, j'attends de voir les explications qu'il nous donne. Est-ce que c'est par c'est des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, pour être technique, ou c'est véritablement
la dispute qui a mal tourné. Ça a l'air d'être le scénario qu'il s'apprête à plaider.
Oui, voilà. Alors, assumer, c'est assumer jusqu'au bout. D'accord ? Pour pouvoir avancer, il faut que les enfants aient une vérité. Donc maintenant, il faut aller jusqu'au bout de cela. Il y a une première démarche qui a été faite en restituant le corps à la famille. Le corps, c'est très dur de dire cela, parce que maintenant, il reste plus grand-chose de cela. Mais la deuxième étape, c'est de dire les choses comme elles sont, en fait. Pas essayer de faire de la stratégie pour essayer de gagner des années. En fait, on n'est pas sur ça. Aujourd'hui, ce qu'il veut, ce qu'il dit, qu'il fait ça pour ses enfants, il faut aller jusqu'au bout. J'attends cela de sa part par rapport aux enfants, tout simplement.
L'avocate de l'une des amies de Delphine dit « on n'est pas dupe » et évoque justement ce que vous dites, cette stratégie peut-être pour gagner des années, en tout cas pour obtenir la clémence des juges. C'est ça que vous soupçonnez ?
Alors, j'espère que ce n'est pas cela, parce que je défends l'intérêt des enfants et j'espère pour les enfants que Cédric Jubilard, il est honnête. Voilà. Maintenant, je vous dis, je n'ai pas le recul. Je vous dis, on part de 5 ans et demi où il a quand même nié les propos de Louis. En fait, hein. On peut dire qu'il a pu dire à demi mot que son fils mentait, à minima se tromper. Donc, quand même, voilà, on part de zéro. On a un enfant qui a été victime de violences régulières de la part de son père. Donc, maintenant, il est temps de faire, de dire les choses. Et et sincèrement, voilà. Si c'est cette démarche-là, vous savez, si on est logique, si on va jusqu'au bout de la logique, s'il fait ça pour ses enfants, il se désiste, hein. Voilà, il se désiste merci de beaucoup. Son appel et puis on n'en parle plus. Il a fait ça pour ses enfants, on a un corps, voilà. Mais
ce procès en appel qui maître Chemani sera sans doute reporté. Hein, c'est ce qui, en tout cas, ressort des premières déclarations. Il est prévu au mois de septembre. Il y a évidemment désormais cette enquête et ces analyses qui sont en cours sur les ossements pour peut-être aussi faire parler ces ossements. Est-ce que ces ossements pourront parler, dévoiler les causes de la mort de Delphine. Ce sera notamment l'un des sujets qu'on pourra évoquer avec Dominique Rizet tout à l'heure. Dominique Rizet, invité du face-à-face à 8h30 face à Marie Chantré. Merci beaucoup Malika Chemani. Je rappelle que vous êtes l'avocate des enfants du couple Jubilard. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Et je remercie également Pierre Bazin, l'envoyé spécial d'RMC qui était avec nous depuis le Tarn. Il est 7h24.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on remonte l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Historien d'Apolline Matin avec la musique de Jurassic Park ce matin pour ce T-Rex d'environ 70 millions d'années qui a été vendu aux enchères pour un montant record.
Eh oui, plus de 50 millions de dollars, c'est inédit. Depuis la découverte du premier T-Rex, c'était en 1900. Nous sommes fascinés par ce dinosaure qui vivait en Amérique du Nord.
Allez, à tout de suite, on se retrouve dans 30 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h25, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire est claire, notre actualité avec Arthur Chevalier. Rebonjour Arthur. Cette semaine, le squelette d'un authentique dinosaure, un T-Rex, a battu un record lors d'une vente aux enchères à New York. Il a été vendu pour 50,1 millions de dollars.
Oui, ce T-Rex, on lui a même donné un nom. Il s'appelle Gus. Son squelette est parti à un prix deux fois supérieur à celui de l'estimation. Un record qui traduit un nouvel engouement pour ces trésors de l'archéologie. Les squelettes de dinosaures atteignent désormais des prix dignes des tableaux les plus chers du monde. Et si la science était débordée par le marché de l'art, Sébastien, c'est toute la question que pose cette envolée des prix des dinos.
Quand est-ce qu'on a découvert le premier T-Rex ?
C'était en 1900, donc il y a plus d'un siècle. T-Rex, c'est l'abréviation de Tyrannosaurus rex en latin et en français, ça veut dire roi des lézards tyrans. Ce surnom, ce sont des paléontologues qui lui ont donné. Et cette espèce a vécu il y a 66 millions d'années, c'est-à-dire à la toute fin de l'époque des dinosaures. Et son lieu de vie exclusif, c'était l'Amérique du Nord.
Pourquoi est-ce qu'il fascine autant ?
Alors évidemment, c'est d'abord à cause de ses mensurations impressionnantes, hein, 12 mètres de long, 4 mètres de haut, le tout pour un poids de 8 tonnes en moyenne. C'était beaucoup, mais c'était pas le plus grand des dinosaures non plus. Et détail important, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il se déplaçait à l'horizontale, ce qui limitait un peu sa stature.
8 tonnes avec un poids pareil, il ne devait pas se déplacer si facilement.
Eh bien, pas si mal, figurez-vous Sébastien. Un T-Rex pouvait courir à 20 km/h, ce qui en faisait un prédateur très dangereux.
Pourquoi est-ce qu'il fait si peur ?
Alors déjà parce que c'est un très grand carnassier, hein, un des plus grands carnivores de l'histoire de l'humanité. Il mangeait d'autres dinosaures et en général, il s'attaquait au plus gros. À elle seule, sa mâchoire pesait 200 kilos, ses dents pouvaient faire 30 cm de long, et quand sa gueule se refermait sur une proie, la force exercée équivalait à 4 tonnes. Donc forcément, tout ça, ça fait peur. Le T-Rex s'est évidemment installé dans notre imaginaire comme l'archétype du dinosaure méchant.
Et la star de Jurassic Park, forcément. Est-ce que les T-Rex sont des descendants aujourd'hui ?
Eh bien oui, puisque comme la plupart des dinosaures, les T-Rex appartiennent en fait à la famille des oiseaux. Donc techniquement, le T-Rex n'est pas si loin du canari. Et j'aimerais, bah oui, c'est la vérité, hein. Et j'aimerais vous donner un chiffre stupéfiant. D'après des scientifiques, au total, 2,5 milliards de T-Rex auraient peuplé la Terre.
Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, tous les matins sur RMC à 7h20. Chronique à réécouter, bien sûr, en podcast quand vous voulez sur rmc.fr et sur l'application RMC. 7h28, dans un instant, la météo. Attention, on surveille évidemment ce matin les orages, le journal de 7h30 et après le journal, le match des perdants. La France qui va tenter de sauver sa Coupe du Monde demain soir. Ce match pour la troisième place, la dernière de Didier Deschamps. Mais comment retrouver la motivation sur le terrain? On en parle avec notre consultant Eric Dimeco juste après le journal. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Tout de suite, un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Jusqu'où ira la pression contre les élus? Le maire d'Alès menacé, deux balles de calibre 9 mm trouvées dans sa boîte aux lettres. L'ombre de la DZ Mafia plane sur cette affaire. Le ciel a viré la tempête dans de nombreuses régions. Une tornade a balayé hier Villars dans le nord de Saint-Étienne. Et ces orages et ces vents violents provoquent ce matin des perturbations sur les rails entre Toulouse et Paris. La grande boucle attend son premier coup d'éclat français. Justement, l'étape du jour entre Dole et Belfort est parfaite pour un exploit.
Et d'abord, donc, ce message d'intimidation visant un élu.
Le maire d'Alès a reçu jeudi 2 balles de 9 mm à son domicile et des inscriptions menaçantes faisant référence à la DZ Mafia ont été taguées sur un mur de sa maison. Et Ameline Lachin, c'est son épouse qui a fait cette découverte.
Oui, c'est en ouvrant sa boîte aux lettres que la femme de Christophe Virenc découvre une enveloppe contenant 2 balles de calibre 9 mm et la signature de la DZ Mafia. Sur les murs de leur clôture, des tags injurieux et menaçants sont aussi retrouvés. « Je n'avais jamais reçu de menaces à ce niveau », confie le maire LR qui y voit, je cite, « la preuve que les actions menées contre ce groupe criminel présent dans la ville depuis l'été dernier pour récupérer les points de trafic déjà existants » portent leurs fruits. Je ne me laisserai pas intimider, fustige Christophe Virenc, promettant de continuer à faire son travail. Une enquête pour menace de mort et intimidation a été ouverte et confiée au commissariat d'Alès ainsi qu'à la direction de la lutte contre la criminalité organisée.
Ameline Lachin.
On en vient au soulagement pour la famille de Mélanie.
18 ans de prison pour l'adolescent de 15 ans qui a poignardé à mort l'année dernière cette surveillante de 31 ans devant son établissement scolaire en Haute-Marne. Une décision du tribunal pour enfants de Chaumont, applaudie dans la salle d'audience et saluée par Evan, le beau-fils de Mélanie.
Moi, j'en suis très heureux. C'est une étape de franchie. Je considère qu'ils ont très, très bien compris le problème et la dangerosité du personnage. Je me suis exprimé à la barre et moi, Quentin, j'ai décidé de lui pardonner. Je ne compte pas me bouffer la vie alors que lui a décidé de bouffer la sienne. Et il ne mérite pas la haine ni la rage qu'il a pu susciter. Techniquement, il la mérite. Il a foutu sa vie en l'air, quoi. Moi, ma conviction profonde, c'est de faire changer les choses sur le sujet de l'accompagnement des élèves à l'école. De faire en sorte que Mélanie soit la dernière à mourir sur un coup de tête et qu'on soit la dernière famille brisée.
Il est 7h32 sur RMC et on part du côté de Saint-Étienne, touché par les intempéries.
Des orages violents, des averses de grêle, des rafales de vent et de nombreux dégâts hier. Toitures et arbres arrachés, un millier de foyers privés d'électricité et une tornade a même parcouru la ville de Villars. Gilles, témoin de la scène.
J'ai vu toutes les tôles du magasin s'envoler, partir sur le parking de l'hôpital. Puis je voyais mon toit, avec le vent, ça levait toutes les tuiles, tout ça. L'arbre rouge que j'avais, là, on ne voit plus qu'un petit morceau. Là, l'arbre, c'est carrément couché et tout. Pour coucher l'arbre presque au sol, ça soufflait fort. Hein. Ça fait peur. Des tempêtes comme ça fait peur.
Les deux familles de Villars doivent être relogées. La toiture de leur maison a été complètement détruite. Autre conséquence de ces intempéries, un arbre est tombé cette nuit sur les rails dans le Lot, entre Toulouse et Paris. Un intercité parti hier qui devait arriver ce matin est resté bloqué cette nuit en rase campagne. Les passagers ne sont toujours pas arrivés en gare d'Austerlitz. Des retards toujours à prévoir ce matin. La SNCF espère un retour à la normale à partir de 9h.
La politique et le gouvernement qui annoncent la couleur. Il va falloir faire des économies dans le budget 2027.
Ouais, presque tous les ministères devront se serrer la ceinture avec une hausse des dépenses limitée à 0,4%, bien en dessous de l'inflation attendue. Presque 709 milliards d'euros de dépenses sont prévus pour l'année prochaine et le gouvernement demande également aux collectivités territoriales de ne pas augmenter leurs dépenses au-delà de l'inflation. Mais derrière les chiffres, Victor Joinin, ces arbitrages reflètent les choix politiques du gouvernement.
Oui, le gouvernement souhaite augmenter nettement le budget des armées de 6 milliards d'euros. Il compte aussi accorder une rallonge à la transition écologique, par exemple pour la gestion des forêts ou l'entretien des voies ferrées, et donner plus de moyens à la justice et au ministère de l'Intérieur pour lutter contre le narcotrafic, notamment. Enfin, l'enveloppe qui finance la recherche est préservée. Voilà pour les ministères gagnants. En revanche, tous les autres vont devoir faire des efforts, à commencer par celui du travail et de l'emploi, qui part près d'un dixième de son budget alors que le chômage remonte, et sans qu'on sache pour l'instant où les économies seront trouvées. Bercy indique juste vouloir s'attaquer aux dérives du compte personnel de formation. Mais toutes ces orientations doivent d'abord être débattues avec les parlementaires. Le budget de l'année prochaine sera voté à l'Assemblée et au Sénat à l'automne.
La promesse non tenue du gouvernement, il prévoyait des factures d'électricité stables cette année en 2027. Et on apprend qu'elles vont augmenter dès le 1er août de 2,5%. Cela représente 26 euros par an. 20 millions de Français sont concernés. Le gouvernement suit les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie.
7h35 sur RMC, on espère un exploit français aujourd'hui sur la Grande Boucle.
La 13e étape entre Dole et Belfort, la plus longue de cette édition, 205 km, pourrait, Kevin Morand, permettre à un Français de briller aujourd'hui.
Oui, et après des premiers jours compliqués, le champion de France, Romain Grégoire, a retrouvé sa forme. Le franc-comtois sera sur ses terres aujourd'hui.
Ouais, ça donne des motivations supplémentaires. Je connaîtrai un peu les routes, en plus, surtout sur les 50 premiers kilomètres que je connaîtrai par cœur. Dans le Ballon d'Alsace, c'est sûr qu'il y aura un peu de monde. Je vais essayer d'en profiter et de me montrer, parce que ça peut être encore une étape qui peut s'ouvrir aux échappées.
Le profit de cette étape, plate jusque dans les 50 derniers kilomètres avec deux ascensions, dont le Ballon d'Alsace, rend le scénario du jour incertain pour Kevin Vauquelin.
C'est une étape qui peut être piégeuse. On peut avoir vachement de mal à pouvoir faire un pronostic, hein. Est-ce qu'il y aura un échappé, est-ce qu'il y en aura... Pas. Qu'est-ce que les sprinteurs, que les baroudeurs. On a aussi l'image de Mathieu Van Der Poel. Beaucoup de coureurs qui, je pense, sont aussi revanchards, mais je pense qu'on peut aussi rebattre les cartes.
Seuls deux des 12 étapes jusque-là ont réussi à un coureur parti en échappée. Les occasions se font rares. Jordan Jegat ne veut pas la laisser passer.
Il peut avoir une opportunité pour une belle échappée. Maintenant, c'est un départ sur le plat, donc il faudra être quand même un petit peu chanceux pour être devant. L'idéal, ce serait d'être accompagné de bons équipiers à moi, faire une belle montée et basculer dans un petit groupe et jouer la victoire, quoi.
Ce final d'étape escarpé sera un avant goût des deux jours suivants plus difficiles, des Vosges jusqu'aux Alpes.
Intégral Tour des 14h sur RMC.
Les courses.
Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Cabourg. C'est à 20h15. Le pronostic de la Dream Team. Leur favori, le 8 Carnac Wood. Et leur outsider, hélas, Express Arc.
C'est jamais évident, ouais, les noms de chevaux. Vous avez tout sur rmc.fr. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et après la défaite, l'élimination en demi-finale, les Bleus peuvent-ils vraiment se consoler demain en remportant le match pour la troisième place? Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour, salut à tous.
Consultant RMC France-Angleterre demain à 23h, à suivre évidemment sur RMC cette petite finale, comme on dit. Mais est-ce un match pour rien? Comment se remobiliser sur le terrain? Ce sera la dernière de Didier Deschamps. Il y a un enjeu pour Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs. Est-ce que ça peut suffire à en faire un moteur sur le terrain? On en parle dans un instant. Et vous allez le regarder ce match, vous allez l'écouter sur RMC. On vous attend en 32-16 sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. À tout de suite.
RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Sébastien Krebs.
Bon réveil si vous nous rejoignez, il est 7h40, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. J-1 avant France-Angleterre, mais les Bleus ont-ils vraiment la tête à ça?
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Notre consultant RMC Fil Rouge, durant toute cette Coupe du Monde, Eric Dimeco est avec nous ce matin. Bonjour Eric.
Bonjour, bonjour à tous.
Franchement, comment on remobilise les troupes là pour ce match de demain? Si on est très clair, personne n'a vraiment envie de le jouer ce match.
Oui, il y aura peut-être même personne pour le regarder. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'il y aura quand même beaucoup moins de monde. Oui, c'est un problème, hein. Thomas Tuchel, l'entraîneur anglais, en a parlé, a dit que personne n'avait envie de le jouer, mais qu'il le ferait par professionnalisme. Il faut savoir qu'à l'Euro, ça n'existe plus depuis le début des années 80, ce match-là. Le match est perdant. Alors souvent, on fait jouer les garçons qui ont peu joué et qui ont été investis. Mais bon, ça... les équipes sont frustrées, sont contrariées, ont pas envie de disputer ce genre de match.
Ouais. Pour vous, il faudrait le supprimer, ce match pour la troisième place?
Oui, il peut y avoir débat, hein, puisque le débat a été lancé, je l'ai dit, par le coach anglais. Mais bon, c'est dans l'ADN de la Coupe du Monde, donc c'est un débat qui est peu important finalement par rapport à tous les problèmes qu'il y a pu y avoir sur cette Coupe du Monde et sur l'évolution de la Coupe du Monde. Mais en effet, deux équipes démobilisées qui ont plus envie de jouer, qui ont envie d'être en vacances, ça peut donner un match inintéressant. Mais il y a eu des buts sur ce genre de match dans les éditions précédentes aussi.
Bon, on va quand même, une fois qu'on a dit ça, espérer un beau spectacle demain soir. On a le sentiment, alors, de ce qu'on lit des échos dans la presse, que malgré tout, le staff des Bleus et Didier Deschamps essayent de remobiliser les troupes. Quels peuvent être les ressorts de ce match? Alors, c'est la dernière de Didier Deschamps. Est-ce que les joueurs peuvent avoir envie d'offrir un beau match à Deschamps?
Oui, c'est possible. Alors souvent, je le disais tout à l'heure, on profite pour ce genre de match de faire jouer des garçons qui ont peu joué, qui du coup auraient une motivation peut-être supplémentaire par rapport à ceux qui sont sortis déçus mardi soir du match et qui ont peut-être plus la tête ni les jambes à cette confrontation. Ça peut être ce ressort-là. Ça peut être. Alors il y aurait eu l'Argentine en face. Il y aurait eu des ressorts un peu plus particuliers avec ce qui s'était passé lors de la dernière Coupe du Monde.
Ça aurait été la revanche.
Mais voilà. Mais là. Mercredi soir, tout le monde était pour les Anglais en France, je crois. Enfin, une grande partie, en tout cas, des Français. Donc, c'est presque un match fraternel, on va dire, alors que c'est nos ennemis intimes, les Anglais, normalement. Mais oui, là, c'est il y a toujours un moyen de jouer sur des ressorts. Porter le maillot de l'équipe de France en Coupe du Monde, c'est important aussi pour les joueurs. Donc, avoir envie de se montrer, avoir envie de respecter ce match-là et le maillot de l'équipe de France. Didier va jouer sur toutes ces cordes-là, bien sûr.
Restez avec nous, Eric Dimeco. On va aller au 32-16, que Katia est avec nous depuis le Loiret. Bonjour Katia.
Bonjour Sébastien, bonjour Eric. Je suis trop contente d'être en direct avec vous et Eric Dimeco, j'adore.
On est ravis de vous accueillir,
merci,
Katia.
Merci.
Vous allez regarder demain le match?
En toute franchise, au début, j'avais pas du tout envie. Mais après, je me dis, c'est pas bien parce qu'ils nous ont fait rêver pendant toute cette Coupe du Monde. Ça reste un match de compétition et en espérant bien sûr... une victoire. Moi, c'est vrai que depuis mardi soir, j'ai l'impression de vivre une période de deuil ou d'être dans un cauchemar et j'ai envie de me réveiller. Je comprends vraiment pas cette défaite et je me l'explique pas, mais bon, c'est comme ça. Quand on est supporter, il faut être là dans les bons et mauvais moments. Et en plus, pour Didier Deschamps, qui a été un super coach, ça lui permettrait de lui offrir et qu'il puisse soigner un peu sa sortie, parce que j'imagine... Déjà, moi, j'ai le cœur très, très lourd, donc je n'ose même pas imaginer celui des joueurs et de tout le staff. Donc peut-être qu'une victoire pourrait un petit peu alléger tout ça et repartir après en vacances et chacun dans son championnat.
Ouais, on se serre les coudes, nous dit Katia.
Il faut, parce que après, bien sûr, on regarde ça avec beaucoup, beaucoup de regrets, un peu même d'amertume, parce que ils avaient tout était réuni pour jouer cette belle et grande finale. En plus, je déteste les deux équipes qui vont se présenter dimanche soir.
une plus que l'autre quand même.
Eric.
Hein. Oui, non, mais dans les leviers pour motiver les joueurs sur ce match-là, il y a aussi le respect et envie de donner du plaisir aux supporters aussi, qui ont été énormes pendant. Enfin, il y a eu un engouement comme souvent dans ce genre de compétition de la part du public, et ça peut être aussi un des leviers de Didier pour motiver les garçons, voilà, faire plaisir aux supporters.
Eh ben, écoutez, on va essayer de se faire plaisir. J'espère qu'ils vont nous faire plaisir aussi. Merci beaucoup Katia pour votre appel. Bon match à vous demain. Merci Eric Dimeco. La finale, bien sûr, dimanche soir, Argentine-Espagne, ce sera à 21h, ce sera sur RMC. Et donc, le match pour la troisième place, cette petite finale France-Angleterre, c'est demain à 23h, à suivre en direct en intégralité sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. RMC qui sera en direct des États-Unis dès 20h et jusqu'à 3h du matin. Merci à tous les deux, il est 7h46.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, la guerre de l'eau est-elle déclarée? Les méga-bassines, les pesticides aussi, les néonicotinoïdes réautorisés dans le projet de loi agricole qui sera soumis au vote final des députés et sénateurs lundi. Ce texte qui fait beaucoup parler, qui fait polémique, c'est le thème de notre débat RMC ce matin avec la voix de gauche, Cécile Duflot. Bonjour.
Bonjour.
Avec Charles Consigny qui sera avec nous dans quelques secondes. La voix de gauche, la voix de droite, face à face. Jusqu'où faut-il aller pour sauver les agriculteurs? C'est notre débat du jour. À tout.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus RMC à 7h47 sur RMC avec Victor Porcher et la chanteuse américaine Lauryn Hill est de retour en France.
Normalement, ça vous la resitue immédiatement, l'ex-chanteuse des Fugees, mais c'est bien en solo qu'elle sera en concert à l'Accor Arena de Paris le 2 septembre prochain. Et la billetterie doit ouvrir ce matin à 10h. Alors, Ray Lady or Not, prête ou pas, les fans l'espèrent parce que Lauryn Hill a laissé un souvenir particulier chez nous. Novembre 2018, la même salle, 2h30 de retard et une prestation jugée chaotique, huée par le public. Alors cette fois-ci, il y aura un côté réunion de famille. Elle sera sur scène avec ses deux fils. Ses deux fils qui sont, eux, aussi chanteurs.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Il est 7h49, vous êtes bien sur RMC, RMC Story, c'est l'heure du débat, RMC, le débat du vendredi, avec la voix de gauche, Cécile Duflo, et avec la voix de droite, Charles Consigny, qui fait à l'instant, en direct, son entrée sur ce plateau. Bonjour Charles et bonjour. Bienvenue à tous les deux. On parle de ce projet de loi agricole qui sera soumis aux députés et sénateurs lundi pour le vote final. Hier, ils se sont mis d'accord sur un texte commun de compromis, mais qui contient la réintroduction de l'acétamipride, ce pesticide tueur d'abeilles, la facilitation aussi des autorisations, des retenues d'eau. Alors jusqu'où faut-il aller pour sauver les agriculteurs, libérer les contraintes environnementales? Charles, est-ce que la ligne rouge est passée?
Non, alors je suis triste quand même qu'on en vienne à réintroduire un pesticide que l'on sait cancérigène. Ça, c'est quand même une connerie. Il faut dire les choses comme elles sont. Et les lobbies qui ont réussi à obtenir ça sont criminels. Et les responsables politiques qui reprennent ça à leur compte, à mon sens, font une erreur. C'est une régression.
Qui sont autorisés dans les pays voisins, dans tous les pays européens.
Oui, mais les pesticides, là, c'est le juriste qui parle. Honnêtement, quand il y a un débat sur la toxicité d'un produit, en général, c'est qu'il est toxique et que l'industriel qui le fabrique fait tout pour enfumer tout le monde. Il y avait eu le cas sur certains médicaments qui donnaient des maladies neurodégénératives. En fait, il y a le cas sur un tas de produits. En réalité, c'est l'industriel qui freine, qui enfume, etc. Donc moi, je pense que même, d'ailleurs, dans le doute, dès lors qu'il y a un débat sur la toxicité d'un produit, faut s'en passer. En revanche, s'agissant des retenues d'eau, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font déjà leur propre retenue d'eau. Moi, j'ai le cas que je connais dans le Jura, à côté de chez moi, où il y a des agriculteurs qui ont créé leur propre bassine. Alors, c'est peut-être pas des méga bassines, mais c'est des bassines. Et ce que je lis, c'est que, au fond, il faut regarder dans le détail des choses les endroits où il y a vraiment une espèce de surabondance d'eau en hiver, en automne-hiver, et les endroits où, en fait, l'eau n'est pas surabondante, ne permet pas d'en garder pour en stocker pour l'été. Moi, ce que je pense, et je termine par là, c'est que il faut accepter qu'on change ce qu'on cultive. Le maïs qui demande beaucoup d'eau en été, si c'est plus compatible avec le climat actuel en France, on fait plus de maïs, faisons autre chose.
Alors, sur le pesticide, on va pas y revenir parce que j'imagine que vous êtes d'accord. En revanche, sur l'eau, Cécile, jusqu'où faut-il aller pour permettre aux agriculteurs d'arroser leurs champs? On avait Maxime tout à l'heure, agriculteur dans le Gers, qui nous disait: en ce moment, je suis en train de voir mes cultures crever, donc j'ai besoin.
D'abord, c'est une bonne nouvelle qu'on soit d'accord, Charles et moi, ça arrive pas tellement souvent, sur la protection de la santé, ce qui est quand même la base. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus choquant que cette loi puisse être votée. Et je pense que les parlementaires qui vont appuyer sur le bouton oui, il va falloir qu'ils se posent des questions, parce qu'un jour, c'est à eux qu'on pourra demander des comptes. C'est pas une petite histoire pour qu'on en arrive là. Effectivement, comme l'a dit Charles, c'est que c'est très grave. On se souvient ce qui s'est passé avec la loi du plomb. On sait que la France est un pays où il y a plus de cancers que dans d'autres pays. Enfin, honnêtement, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Sur la question de l'eau, en fait, je suis d'accord avec ce qu'a dit Charles. Il a dit qu'il y a des petites retenues d'eau là où c'est possible, etc. Le sujet de ce texte, c'est qu'il autorise, ou plus exactement, il rend possible de manière plus rapide des méga-bassines dont on sait que ça ne marche pas et que c'est reculer pour mieux sauter. Et je suis évidemment encore d'accord avec ce qu'il a dit. C'est intéressant. Sur le fait que quand on cultive des cultures qui ne sont plus adaptées au climat, alors ça vaut pour le maïs super irrigué, mais parce qu'on peut faire d'autres protéines, mais ça vaut aussi pour d'autres sujets qui sont des sujets qui très identitaire pour le pays, comme le vin. On sait qu'il y a des zones de France où ça va être plus compliqué de cultiver certains cépages. Donc le vrai enjeu pour l'avenir de l'agriculture, et pour répondre à votre question, sauver les agriculteurs, c'est pas essayer de faire tenir un modèle qui marche plus avec le dérèglement climatique encore quelques mois, quelques années, au profit des plus gros d'entre eux. C'est engager tous ensemble et les accompagner, y compris par des aides financières, à aller vers un modèle de culture qui est tenable avec les conditions climatiques qui sont celles qui sont devant nous.
Après, les agriculteurs disent eux-mêmes avoir le sentiment d'être pointés du doigt, le sentiment parfois de d'être ciblés par toutes sortes par des revendications écologistes et finalement d'être étranglés aussi par les normes. C'était aussi ça l'enjeu de ce texte, c'était de libérer un certain nombre de normes. Là-dessus, Charles.
J'échange quand même. Alors, ça fait pas une vérité générale, mais j'échange quand même avec beaucoup d'agriculteurs. Je sais pas si c'est tant les agriculteurs que les industriels et que certaines grosses structures agricoles, si vous voulez, qui confinent à l'industriel finalement, qui deviennent des industriels de l'agriculture. Les agriculteurs tels que je discute avec eux, ils ont effectivement beaucoup de normes à respecter. Ce qui les emmerde, ce n'est pas tant les normes quand elles sont des normes d'ordre sanitaire qui visent à les protéger eux, à protéger les consommateurs, voire à protéger l'environnement. C'est plutôt le fait qu'on importe des produits qui, eux, ne doivent pas respecter les mêmes normes. Donc, par exemple, le traité du Mercosur, il est singulièrement détesté par beaucoup d'agriculteurs, à part peut-être par les viticulteurs qui vont exporter du vin, mais sinon, ils sont quand même très opposés à ce traité. Et c'est le fait qu'on leur demande finalement de faire de l'administratif. Et ça, c'est quand même un truc insensé, mais c'est la France. Quelqu'un qui est 10 heures, 12 heures par jour dans son champ, 7 jours sur 7, on lui demande en plus de se taper 2 heures de traitement administratif. Ils doivent déclarer s'ils ont labouré tel champ, pas tel champ. Ils sont contrôlés par satellite. Enfin, ça, c'est surtout ça qui leur pèse. Je suis pas sûr que ce soit vraiment les normes sanitaires.
Bah, vous disiez les importations, par exemple, l'acétamipride. On va importer des noisettes cultivées à l'acétamipride.
C'est tout à fait anormal. Et là, pour le coup, mais c'est bien, c'est notre dernier débat de cette année.
Je crois qu'on ne peut pas cultiver de noisettes sans l'acétamipride.
Alors, c'est plus compliqué. Si, ça existe des noisettes bio. Donc, quand les noisettes sont bio, il n'y a pas d'acétamipride. C'est sûr que c'est plus compliqué. Et notamment sur les questions des betteraves, il faut travailler différemment. Et là aussi, Charles a raison, c'est une bonne fin d'année. C'est que plus vous faites des cultures.
On va pouvoir appeler l'émission.
On va vous réconcilier aujourd'hui.
Non. Moi, j'aime bien que, justement, sur ces questions-là, la très, très grande culture, monoculture qui rend les cultures plus vulnérables. Il y a plein de recherches agronomiques, c'est pas d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce sont des recherches agronomiques qui montrent que quand on mixe les cultures, quand on fait une chose qui est millénaire, c'est-à-dire qu'on change les cultures d'année en année, qu'on n'utilise pas le sol uniquement comme un substrat enrichi de produits chimiques, ça peut fonctionner différemment. Mais sur la question des importations et des exportations d'ailleurs, la question des clauses miroirs, la question de protéger notre agriculture et aussi de protéger nos commandes. Et du coup, je voudrais vous donner un exemple. Quand on fait des vêtements, quand on fait des vêtements en coton, ben on utilise beaucoup d'eau et notamment on importe énormément, on produit pas de coton en France. Mais il y a une culture qui fait du textile qui s'appelle le lin. Et par exemple, une entreprise comme la SNCF a décidé de changer totalement le matériau de ses tenues de travail, ce qui est considérable comme commande, de le faire en lin produit en France. Le lin n'est pas une plante qui a besoin d'irrigation. Ben, typiquement, quand on pense l'agriculture de manière globale, et y compris sur l'alimentation, où on change la logique des industriels, je pense que tout le monde va mieux. Les agriculteurs, les consommateurs, le pays, notre balance extérieure. Donc je pense que c'est ça, et c'est ce modèle-là sur lequel il faut travailler.
On a presque réussi à vous réconcilier ce matin pour le dernier
débat. Pour l'avenir de l'agriculture en France.
Voix droite sur l'avenir de l'agriculture. Cécile Duflo, Charles Consigny, merci à tous les deux. Il est 7h57 dans un instant, le journal de 8h avec Alain Cédric Jubilard qui a donc finalement indiqué où il avait enterré le corps de sa femme. Nous retournerons bien sûr en direct dans le Tarn. Et juste après, l'économie avec vous, Pierre Rondeau. Bonjour Pierre, on va faire un bilan économique de la Coupe du Monde ce matin.
Oui, le chiffre d'affaires de la FIFA a explosé, mais il faut dire c'est normal avec une Coupe du Monde et 104 matchs.
A tout de suite, la météo bien sûr avant le journal. Anthony Casmaric qui nous dira que la journée sera encore instable et un peu moins chaude.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Bienvenue, merci de nous rejoindre sur RMC et RMC Story, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. On a une pensée ce matin pour les voyageurs qui ont passé la nuit dans deux trains de la ligne Paris-Toulouse, bloqués à cause des orages qui ont provoqué la chute d'un arbre et qui coupe toujours la circulation ce matin dans le Lot, jusqu'à 6 heures de retard là au moment où on se parle. Nous serons dans le Tarn dans ce journal où les recherches reprennent au lendemain de la découverte d'ossements dans un champ, vous savez, où Cédric Jubilard a dit avoir enterré sa femme. Et nous serons aussi à La Baule, la cité balnéaire de Loire-Atlantique, où des CRS arrivent au renfort la ce matin face aux incivilités constatées pendant les vacances.
La nuit a donc encore été chaotique pour des centaines de voyageurs.
Alors cette fois, c'est pas à cause de la chaleur, c'est à cause des orages qui ont fait tomber un arbre sur la voie ferrée dans le Lot, donc entre les villes de Gourdon et de Souillac précisément. C'est la ligne Paris-Toulouse qui est une des plus problématiques de France d'ailleurs. Les trains ne peuvent plus passer concrètement ce matin. Il y a deux intercités de nuit qui sont bloqués avec jusqu'à 6 heures de retard. Je vous propose d'écouter ce passager qui était dans un train parti hier soir de Toulouse, censé arriver vers 7 heures ce matin à Paris. On lui a passé un coup de fil là tôt ce matin, il nous raconte l'enfer de son voyage.
De minuit jusqu'à 6 heures du matin, il ne s'est rien passé. Aucune annonce, le train était éteint et on est resté comme ça à se demander ce qui nous arrivait. Il faisait chaud, pas de climatisation. Le chef de train de la SNCF, le contrôleur, a ouvert toutes les fenêtres de toutes les voitures de train. Les passagers de première classe ont eu des boîtes repas, les autres non. Et voilà, on est actuellement dans un train de secours, entre guillemets, arrêté en pleine voie. J'ai pris un train de nuit parce que je dois travailler à Paris ce matin. On va probablement arriver à Paris vers 16 heures. Quel moyen peut sauver ma journée ?
Et la SNCF qu'on a eu au téléphone là il y a quelques minutes seulement nous dit que la reprise du trafic est espérée, seulement espérée pour la fin de matinée. Alors dans la soirée, c'est dans la Loire, à l'autre bout de la France, qu'une tornade a couché deux camions sur l'autoroute A72 au nord de Saint-Étienne. Il y a 53 000 foyers qui se réveillent sans électricité ce matin en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, les régions principalement touchées par ces orages. Plus de 140 000 impacts de foudre recensés hier partout en France. La canicule aussi qui est toujours en cours, vous savez, dans le sud-est avec 10 départements en alerte orange, eh bien elle est à l'origine d'une panne de courant à Marseille, c'était hier jusque dans la soirée, qui a provoqué les fermetures des tunnels passant sous le Vieux-Port d'après Enedis.
Il est 8h02 sur RMC, les recherches reprennent dans le Tarn.
Au lendemain de la découverte d'ossements dans un champ, à l'endroit où Cédric Jubilard, récemment passé aux aveux, dit avoir enterré le corps de son épouse après l'avoir tué il y a bientôt 6 ans. Pierre Bazin, vous êtes pour RMC en direct ce matin à Mayoc, c'est là que la découverte a été faite hier et là que les recherches reprennent ce matin.
Oui, ce matin, il y a encore près de 100 gendarmes qui sont mobilisés sur la zone. On a vu arriver notamment plusieurs fourgons, banaliser des équipes scientifiques, des médecins légistes déployés. 7 experts de l'IRCG, l'Institut de Recherche de la Gendarmerie Nationale, sont toujours présents dans cette zone perdue au milieu de champs et de petits espaces boisés. C'est là que Cédric Jubilard a conduit les enquêteurs après son audition, au cours de laquelle il a réitéré des aveux et fourni des éléments d'explication sur le soir du drame. D'après ses avocats, on a également vu arriver entre hier et aujourd'hui une grue mobile située en plein milieu de la zone de recherche et on entend d'ici, même si nous sommes tenus à bonne distance, que les gendarmes s'activent au milieu de cet espace. Tout doit être ratissé au peigne fin pour être sûr de ne laisser aucun élément utile à l'enquête. L'enjeu à présent, il est double. Analyser dans un premier temps les ossements qui ont été conduits dans les laboratoires de Pontoise en Île-de-France dès hier pour savoir s'ils correspondent au corps de Delphine Jubilard. Et puis le second enjeu, si cela se confirme, c'est de retrouver le plus d'éléments possible pour reconstituer le squelette et essayer de déterminer quelles sont les causes de la mort. Il faut pour cela retrouver par exemple des traces de choc ou de fractures sur les os. Mais il est aussi possible que l'autopsie ne permettent pas d'apporter tous les éléments de réponse.
Autre affaire, on reparle là ce matin des conséquences de l'affaire Liana, puisqu'un deuxième rapport d'inspection pointe, et je cite ce rapport, les délais manifestement excessifs et un manque de moyens dans l'enquête sur de précédentes accusations visant le mis en cause Jérôme Barella. Amine Lafcha en direct ce matin pour RMC. On parle là de la jeune Rosa qui dit avoir été violée une cinquantaine de fois par Jérôme Barella.
Oui, et dans ce rapport, l'inspection générale de la justice évoque un examen psychologique de la fillette mené par un psychologue non inscrit sur la liste des experts, puis un interrogatoire qui s'apparente, je cite, à un examen de la crédibilité de l'enfant proscrit depuis l'affaire dite d'Outreau. Le dossier fragilisé n'est alors pas prioritaire et renvoyé de parquet en parquet et n'est saisi par un service d'enquête qu'au bout de 10 longs mois avant d'être classé sans suite sur un simple compte-rendu téléphonique. Les enquêteurs de ce rapport font aussi mention d'un signalement fait par l'aide sociale à l'enfance faisant état d'agression de la part de Jérôme Barella lors d'une soirée pyjama. Un signalement jamais parvenu au magistrat, le mail étant considéré comme un spam par le logiciel de messagerie du parquet.
Alors c'est dans la foulée de cette affaire Liana que les magistrats ont réexaminé plus de 70 000 procédures. Ils en avaient la consigne sans quoi ils ne partaient pas en vacances. Et ce matin, la procureure de Lyon fait un constat édifiant. Elle dit ceci, je la cite, 2018, on savait qu'on sous-traitait les violences sexuelles sur mineurs.
Au point qu'elle l'affirme dans un entretien accordé à l'AFP, on sait que l'affaire Liana peut se reproduire. Selon la magistrate, le nombre d'enquêteurs formés à recueillir la parole des enfants est insuffisant. De même que le nombre d'experts dans les domaines psychologiques, psychiatriques et numériques. Un sujet qu'elle a abordé avec le garde des Sceaux. La procureure de Lyon dénonce des capacités limitées et un sous-traitement des violences sur mineurs, regrettant qu'au moment des dessaisissements, les dossiers transmis entre les parquets partent dans les tuyaux.
Amélie Nachin pour RMC en direct ce matin. Et dans ce contexte, le gouvernement dévoile ses premières orientations pour le budget de l'année prochaine, le budget 2027. Il va beaucoup en être question là dans les prochains mois. Alors tous les ministères devront se serrer la ceinture, sauf la justice, l'intérieur, les armées et la transition écologique qui verront leur budget augmenter. Puisqu'on parle de sécurité, tiens, sachez que des CRS arrivent ce matin en renfort à La Baule, en Loire-Atlantique. C'est le cas tous les ans pour faire face aux incivilités que dénonce le maire dès les beaux jours, dès que les beaux jours arrivent dans cette cité balnéaire. Une rixe, par exemple, qui avait fait la une des journaux lors du week-end de la Pentecôte à La Baule, mais où la venue de ces CRS divise les habitants. C'est ce que nous dit notre correspondant Martin Lange.
Christophe est gérant d'un restaurant de plage face à la mer. Entre les services, le bar, la caisse, il doit aussi gérer le comportement de certains vacanciers.
Quelques incivilités, on fait un peu la police pour protéger un petit peu notre restaurant.
Il se réjouit donc de l'arrivée de cette compagnie de CRS.
Ah bah oui, c'est un renfort, puis c'est un peu leur métier, parce que nous on est surtout là pour servir les gens, on n'est pas trop là pour les réprimander. Quand ils se montrent, c'est vrai que ça calme un peu tout le monde.
Sur le remblai, face à la mer, la majorité des passants approuvent cette présence. Pierre vient en vacances à La Baule depuis plus de 40 ans.
Ils peuvent rassurer les gens, et puis le fait de les voir va faire que ces jeunes vont peut-être se comporter différemment.
D'autres émettent des réserves à l'image de Félix, pour qui des CRS n'ont rien à faire dans une station balnéaire.
Ça envenime plus la situation que ça l'appelle. Il y a déjà la police municipale qui sert de police de proximité. Je pense pas que déployer même des CRS, ce soit vraiment nécessaire.
Mais pour le maire, Franck Louvrier, ce renfort est vital.
Quand vous avez une ville qui est multipliée par 10 en nombre d'habitants, il est normal qu'on puisse avoir des forces en plus. Sinon, c'est pas possible. Les CRS, c'est pas que de l'ordre public. Les CRS, c'est aussi de la présence policière au quotidien.
Le maire espère également pouvoir bientôt investir dans des drones pour surveiller ces 8 km de plage.
Tiens, à propos des vacances, l'autoroute A6 est à nouveau ouverte à la circulation en Seine-et-Marne dans le secteur de Fontainebleau. Elle était fermée depuis dimanche, vous savez, à cause de l'incendie dans la forêt. D'ailleurs, les opérations de noyage se poursuivent, nous disent les pompiers ce matin. Réouverture qui tombe pile pour un nouveau week-end de départ en vacances. La journée classée orange au niveau national et rouge dans la moitié est.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors les vacances, l'été, normalement on peut veiller, on peut se coucher plus tard, mais est-ce que vous aurez la foi de regarder la petite finale de la Coupe du Monde demain soir à 23h entre la France et l'Angleterre? Ben c'est pas sûr du tout si on en croit ces Parisiens, ces touristes et ces cafetiers ici à Paris avec David Alias.
Si le mondial n'est pas encore totalement terminé pour les Bleus, il l'est pour certains supporters qui n'allumeront pas leur télévision demain soir.
Trop tard, c'est à 23h. En plus, là, je suis en vacances sur Paris, on va pas regarder le match.
J'espère qu'ils vont faire un brustas, tout, en plus ça va être contre les Anglais. Et je pense que je vais moins suivre ce dernier match.
Pour d'autres, comme Roman et son frère Aubry, ce match sera l'occasion d'encourager une dernière fois les Bleus et leurs sélectionneurs.
Pour faire jouer les mecs qui n'ont pas joué, qui étaient là sur tout le mondial, qui ont participé à l'aventure.
Une des seules raisons pour laquelle je vais suivre le match, c'est parce que c'est la dernière de Deschamps. Pour tout ce qu'il a fait pour notre sélection, ça serait beau que l'équipe gagne ce match pour lui rendre hommage.
Même si ce dernier aurait préféré ne pas affronter l'Angleterre.
T'as arrêté France-Argentine à 23h le samedi soir, même la petite finale, même la troisième place. Je pense que j'aurais été dans ma télé sacrément concentré et comme une grosse partie de la France, je pense.
Serveuse, Julia s'attend tout de même à accueillir de nombreux supporters des Bleus demain soir pour suivre la rencontre.
Oui, je pense qu'il y aura du monde parce que ça reste la France qui joue. C'est la dernière victoire qu'on espère avoir.
Comme ici, d'autres établissements diffuseront la petite finale avec l'espoir de voir Kylian Mbappé et sa bande finir sur une bonne note.
Les Bleus qui sont arrivés à Miami durant la nuit, ils ont définitivement quitté leur QG de Boston. Ils devaient avoir quartier libre dans la soirée, mais ça a été annulé. Didier Deschamps veut que tout le monde reste concentré pour la petite finale demain soir. On sait déjà que le défenseur William Saliba ne jouera pas demain et pour cause. Il souffre d'une fracture au dos depuis le début de la Coupe du Monde. C'est toi, RMC, qui vous a révélé cette info dès hier. Et tiens, puisqu'on parle de pépins physiques, sachez qu'il y a deux coureurs qui abandonnent là, le Tour de France, victimes de la très grosse chute hier à l'arrivée dans le sprint final à Chalon-sur-Saône. Ce sera la plus longue étape du Tour de France aujourd'hui. 206 km entre Dole et Belfort. On arrive dans les Vosges. Ça y est, la route s'élève à nouveau avec le ballon d'Alsace au programme à 30 km aujourd'hui de l'arrivée.
Il est 8h10. C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC et RMC Story. Et c'est l'heure de parler économie et football.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Pierre Rondeau, rebonjour Pierre.
Bonjour,
la Coupe du Monde se termine donc dimanche avec la finale Espagne-Argentine. Et on peut déjà le dire, c'est une Coupe du Monde qui va battre tous les records.
Oui, la Coupe du Monde va permettre à la FIFA de dégager un chiffre d'affaires sur la période 2023-2026 de 11 milliards de dollars. Pour bien se rendre compte de l'exploit, la FIFA avait enregistré un chiffre d'affaires de 6 milliards sur la période précédente avec la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cette augmentation spectaculaire de 5 milliards s'explique surtout par la billetterie, avec des recettes en augmentation de 2,59 milliards de dollars et les droits TV en augmentation de 890 millions de dollars. Deux choses ici pour expliquer cette inflation. Le mondial à 48 nations, donc qui dit plus d'équipes, dit plus de matchs, donc plus de diffusion et plus de droits TV. Et de même, qui dit plus de matchs, dit plus de billets vendus, 7,1 millions au total, dans des stades américains plus grands. Et ces places ont été vendues plus chères, avec le fameux système de la tarification dynamique. Plus la demande est forte, plus le prix grimpe. Et comme il y a eu 500 millions, un demi-milliard de demandes d'achat sur toute la compétition, les places se sont échangées entre 200 et 5000 dollars en moyenne et même jusqu'à 32 000 dollars pour la finale.
Et tout cet argent, il va servir à quoi ?
Alors officiellement, la FIFA est une association de droit suisse, donc n'a pas de but lucratif et ne doit pas rémunérer des actionnaires. L'argent qu'elle gagne doit obligatoirement être réinvesti, réinjecté, dépensé, et une très grosse partie est consacrée au développement du football à l'international et au financement des prochaines compétitions, des prochaines Coupes du Monde. Ensuite, il y a 748 millions d'euros qui seront redistribués aux équipes participantes à la compétition. La simple présence en Coupe du Monde, c'est 7,6 millions d'euros garantis. Et au fur et à mesure que vous avancez dans la compétition, le chèque augmente. Éliminée en demi-finale, l'équipe de France aura donc la certitude de toucher un chèque de 23 millions d'euros. Et si elle venait à battre l'Angleterre demain, elle pourrait toucher le pactole de 24,6 millions d'euros en terminant troisième, ce qu'on espère tous.
Notre point quotidien sur les chiffres du carburant,
alors,
l'énergie.
Le sans-plomb 95, il baisse, mais très. Enfin, il baisse. Il est à 1,96 et quelques. On est aujourd'hui à 1,96, donc il y a une quasi-stagnation. Le gazole, 2,03€, pareil, il y en a aussi une quasi-stagnation. Le baril de pétrole, il augmente, mais très légèrement. 85 dollars, 85,06 aujourd'hui. Et le gaz, pareil, stagnation, ça n'augmente pas, 55,30€.
Merci Pierre Rondeau. Pour l'économie, il est 8h13 sur RMC. Et dans un instant, Arnaud Demanche va nous faire rire avec l'actualité.
RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h15 sur RMC, à suivre le face-à-face. Marie Chantrey reçoit Dominique Rizet pour revenir sur les rebondissements dans l'affaire Jubilar. Les ossements retrouvés peuvent-ils parler et nous apporter des informations sur les causes de la mort de Delphine Jubilar? Ce sera à 8h30. D'abord, beaucoup de réactions sur le WhatsApp RMC, Victor, notamment sur notre débat du jour qui a animé Cécile Duflo et Charles Consigny tout à l'heure sur ce projet de loi agricole.
Et on a d'abord Stéphane qui nous dit les pollinisateurs et l'eau, c'est la vie. Et là, on a décidé d'abord de réintroduire des pesticides et deux, de privatiser l'eau. Les députés et les sénateurs sont irresponsables. On a aussi Thierry qui nous dit, moi je stocke de l'eau chez moi. On en récupère aussi pour les réseaux collectifs. Alors pour moi, pour les agriculteurs, il n'y a pas de débat. Ils doivent pouvoir eux aussi stocker de l'eau. Et puis Corinne nous dit, c'est un recul immense pour notre pays, cette réintroduction de deux pesticides interdits en France, mais autorisés chez nos voisins européens, au moment même où les cancers digestifs sont en progression. Corinne nous dit que c'est un très très mauvais signal.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est en vacances, mais on vous a gardé le meilleur d'Arnaud de Manche.
Les amis, oui. J'ai une super nouvelle pour vous. Attention, vous allez être contents. Car les salles de sport Basic Fit vont ouvrir la nuit. Vous allez pouvoir faire votre muscu avant de venir à la matinale.
C'est Apolline, tellement à l'américaine.
Une heure du mat, ça
bien
va
sûr,
être génial.
Bien sûr.
Apo, elle va faire son développé couché, des fentes bulgares avec des kettlebells, boxer, des punching balls en disant « Alors Villepin, tu veux pas répondre ?» Ils viennent d'où tes sous ? Et Apo, elle verra aussi débarquer Alain Bauer dans le Basic Fit, qui sera en micro-short fluo. Oh, quelle coïncidence, Apolline. Vous ici, vous savez que je viens de sortir mon nouveau livre. Ça s'appelle « C'est la loose dans le détroit d'Ormuz ». Et c'est l'histoire d'un bel aventurier moustache. Je sais, Alain, je sais. Appelez ma programmatrice. Elle a bloqué mon numéro. Et toute l'équipe de BFM Business serait là aussi. Manu Le Chypre et Edwige Chevrillon. T'as vu Edwige ? Je suis sur cette machine depuis une heure. Je tiens bien le coup, hein. Oh, Choubinou, comme tu es fort ! C'est la machine à confiserie. Ah oui. Rejoins-moi sous la douche. On va voir combien de kilos tu peux soulever au développé couché.
Oh, non.
À propos de salle de sport, avez-vous vu cette polémique géniale après les déclarations d'une journaliste du Figaro, Anne de Guigné, invitée du club Figaro ID? Elle a déclaré ceci.
Les mêmes salariés s'infligent des efforts mais colossaux. Et même les salles de sport qui se multiplient dans toutes les villes françaises et en fait qui cultivent une vraie nostalgie de l'usine. Une nostalgie industrielle.
J'avoue que j'avais vu. Je l'ai dit, en fait, c'est une nostalgie de l'usine.
C'est une nostalgie de l'usine. C'est pour ça qu'on va à la salle
de sport. Ça cultive d'ailleurs cette nostalgie.
Oui, on est nostalgique de l'usine. Et c'est vrai que c'est puissant cette nostalgie. Tous ces gens sur les rameurs. Hein, cette nostalgie des galères romaines. Le bon vieux temps.
Voilà.
L'envie de perdre du poids. Mais non, mais on était mieux du temps des famines.
Oui.
On avait un rat crevé à Noël, mais on était heureux. Il n'y avait pas de problème de surpoids.
Hier, Arnaud, le MEDEF a donc reçu à déjeuner le président du RN, Jordan Bardella, pour échanger sur des sujets économiques.
Oui, alors le patron du MEDEF a accueilli Jordan. Bonjour, monsieur Bardella. Alors, qu'est-ce que vous connaissez du monde des affaires ? Des affaires au RN, on en a plein. On a l'affaire des parlementaires européens, l'affaire des kits de campagne. Non, mais des affaires du business. Vous faites un peu du business ? Oui. Avec la Russie, par exemple.
Voilà.
Non. Qu'est-ce que vous proposez pour aider les TPE ? Eh bien, les TPE, grand 2, les TPE, des fois, on met sa carte et ça marche pas. Donc, mais c'est bien embêtant. Non, mais c'est pas ça, les TPE. Ah. Moi, ma copine, c'est une princesse.
Ah oui.
On n'est pas sorti du sable.
C'est pas gagné.
Pas du tout.
Et puis, Arnaud, c'est toujours la crise dans le détroit d'Ormuz.
Ah oui. Aïe, aïe, aïe.
Zut.
Ah, pa, quelle histoire. Eh ouais. Ouais. Bah, il va falloir tenir jusqu'à juin avec le sujet. Hein. Alors, aux dernières nouvelles. Les dernières nouvelles.
Oui.
Dernières nouvelles.
Allons-y, les dernières nouvelles.
A menacé de détruire les ponts en Iran si les pourparlers de paix échouent. J'espère que Macron va pas s'inspirer de lui, qu'il va pas faire. Mais voilà! Ça, c'est bien! Vous aussi, les Gaulois, faudrait vous faire sauter vos ponts, là, votre connerie de 1er mai. Allez, ça dégage. L'année prochaine, c'est dehors. Et le pont du 8 mai. Et hop, à l'usine. Ça vous rappellera la salle de sport. Et le pont de l'Ascension. Vous en avez combien des trucs? Regarde, au moins, le pont de Ligonnès, lui, il a disparu, celui-là.
Arnaud Demange, que vous retrouvez quand vous voulez sur rmc.fr et sur l'appli RMC en podcast. Allez, on va retourner au 32-16, standard RMC. C'est Fabien qui est avec nous. Bonjour Fabien.
Oui, bonjour.
Bienvenue Fabien, viticulteur dans l'Aude, c'est ça ?
C'est ça.
Chez vous, le sujet de l'eau, on parlait tout à l'heure du sujet du stockage de l'eau. Évidemment, j'imagine que c'est un sujet extrêmement sensible pour vous en ce moment, l'eau.
C'est plus que sensible, c'est primordial. Quand on voit les incendies, par exemple, qu'on a eu l'année dernière, de nouveau cette année, dans les Pyrénées-Orientales, à cause, en grande partie, de la déprise agricole, car tout s'enfriche, parce que sans eau, maintenant, il n'y a plus de culture possible chez nous.
Ça devient catastrophique. Il y a des stockages d'eau chez vous ?
Alors, il y a quelques stockages d'eau. Alors, on a la chance d'avoir des stockages en montagne qui permettent du soutien d'étiage, où on a des relargages de mètres cubes l'été. Et on a un lac assez grand d'une quarantaine d'hectares qui sert de base de loisirs et qui sert aussi d'adduction d'eau brute. Et on a le canal du Midi aussi. Mais il faut se dire, alors c'est une portion congrue des terres agricoles qui sont irriguées dans notre coin. Certaines personnes ont la chance d'irriguer, d'autres n'ont pas cette chance-là. Et avec les années que l'on vient de passer là, on est sur 4 années de sinistres climatiques sur 5 ans. Donc il y a la grande majorité des exploitations qui sont à genoux, quoi.
Alors j'imagine que vous êtes évidemment, vous soutenez cette loi qui va alléger un certain nombre de réglementations pour permettre le stockage de l'eau. Ce projet de loi agricole très critiqué. Vous entendez comment vous réagissez quand vous entendez ceux qui estiment que c'est une forme de privatisation de la ressource en eau, voire d'accaparement des ressources en eau par les agriculteurs.
Mais en fait, là, on est bien dans le dans l'état d'esprit du Français qui veut toujours régenter ce qui ne le concerne pas et ce qui ne le touche pas surtout. Donc, un accaparement de l'eau, c'est faux, c'est totalement faux, car toutes ces organisations, toutes ces stockages sont collectifs. Chez nous, par exemple, il y a 80% du réseau d'eau qui est géré par BRL, donc qui est chapeauté par la région Occitanie. Donc, on est très très loin de l'accaparement de l'eau. On est très loin de l'accaparement de l'eau. Nous, la profession, on est à fond pour les démarches les plus collectives possibles, pour que la majorité d'exploitants ne soient pas laissés sur le bord du chemin. Et puis en plus réaliser des économies d'échelle en montant des projets qui sont conséquents.
Donc vous dites nous on prend le sujet parce qu'il est c'est un sujet d'urgence, mais on est responsable. Il y a des messages sur le WhatsApp RMC Victor sur ce sujet avec d'autres agriculteurs.
Et oui, tous les agriculteurs ne sont pas d'accord. On a le message de David qui lui est maraîcher bio dans les Pyrénées-Atlantiques et qui nous dit la maison brûle et nos responsables syndicaux et politiques continuent de regarder ailleurs, notamment vers le profit particulier seulement de certains et à court terme. On ne pense pas à long terme, nous dit David. Cette loi n'est pas une erreur, elle est un scandale, conclut-il dans son message.
La question qu'on peut se poser, Fabien, et j'imagine que c'est aussi vos interrogations et vos doutes, et c'est votre activité, on comprend l'importance, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à cultiver de la vigne, par exemple, dans l'Aude? Les questions de l'avenir?
Sur l'année, on a largement assez d'eau, si on la stocke, pour pouvoir avoir l'agriculture la plus responsable du monde. Mmh. Avec un climat qui est très sec, une fréquence de traitement qui est des plus faibles de France, on a un climat qui est fait pour tout. On a pris 800 mm cet hiver de pluie, on avait de l'eau partout, et là maintenant, on a les terres les plus sèches depuis 10 ans. Mmh.
Merci beaucoup Fabien pour votre témoignage ce matin. Merci d'avoir composé le 32-16 depuis l'Aude. Dans un instant sur RMC, le face-à-face, Marie Chantré reçoit Dominique Crisé pour revenir sur les derniers rebondissements dans l'affaire Jubilard.
Merci d'écouter RMC, il est 8h25.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres avec Clément Gouitz.
53 000 foyers privés d'électricité ce matin, conséquence des violents orages de ces dernières heures en Auvergne, Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Des intempéries qui provoquent également des perturbations sur les rails entre Toulouse et Paris. Deux intercités partis hier soir ne sont toujours pas arrivés ce matin en gare d'Austerlitz. Un arbre est tombé sur les voies dans le Lot. De nombreux retards ce matin sont à prévoir. La SNCF espère un retour à la normale à partir de 9h. Le mystère Delphine Jubilard touche-t-il enfin à sa fin? Son mari, Cédric Jubilard, a guidé hier les enquêteurs sur une nouvelle piste. Plus de 5 ans après sa disparition, des ossements retrouvés à Mayoque dans le Tarn restent à les identifier. Les fouilles vont durer plusieurs jours. Deux ouvriers d'une société de travaux ont été mis en examen hier pour le déclenchement involontaire du premier incendie de la forêt de Fontainebleau. Une étincelle d'une disqueuse aurait mis le feu à la végétation près de l'Assis. L'Assis, justement, a pu rouvrir hier soir. Et puis, c'est à vivre dès 14h sur RMC, la 13e étape aujourd'hui entre Dole et Belfort, la plus longue de cette édition, 205 km. La météo, un risque d'orage, surtout cet après-midi sur le nord-est, l'Île-de-France, le centre et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Partout ailleurs, alternance entre nuages et belles éclaircies, grand soleil sur le pourtour méditerranéen. Il fera cet après-midi de 22 à 36 degrés, 22 à Dunkerque, 28 à Nantes-Orléans et 36 à Nîmes.
C'était le rappel des titres de Clément Gouitz. Dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Marie Chantré reçoit Dominique Crisé pour revenir sur les derniers rebondissements de l'affaire Jubilard.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Marie Chantré.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur BFM TV et RMC. Bonjour Dominique Crisé.
Bonjour Marie.
Merci beaucoup d'être avec moi ce matin. Je le disais, on ne vous présente plus. Vous êtes consultant police-justice BFM TV et la voix aussi et le visage de ces grands récits d'affaires criminelles qui ont traversé notre époque. Et au nom de ces grandes affaires criminelles, oui. Celle de Cédric Jubilard en est une affaire hors norme, on va y revenir en détail, qui après plus donc de 5 années de dénégation, de non-dit devant la justice... Oui. Eh bien, les aveux, et peut-être la fin d'une énigme. Jamais il n'avait collaboré avec la police. Oui. Hier, il les a amenés sur les lieux où il a enterré son épouse. On va y revenir là aussi longuement. On pense aussi quand même à la famille de Delphine Jubilard, ses enfants. On verra d'ailleurs ensemble ce que ça va changer aussi pour eux. Mais d'abord, Dominique, depuis 7h ce matin, les fouilles ont repris à une dizaine de kilomètres là où habitaient Delphine et Cédric Jubilard, dans un champ. Des fouilles qui ont repris, selon vous, est-ce qu'elles peuvent durer encore longtemps, ces fouilles?
Oui, ça peut durer longtemps. Le site est protégé. Toute cette nuit, on avait posé un barnum au-dessus de l'endroit où étaient retrouvés, où étaient retrouvés déjà des parties du corps de Delphine Jubilard hier. Deux fémurs, c'est ce qu'on avait, et quelques ossements. Oui, ça peut durer 2-3 jours. À partir du moment où le site est protégé, les enquêteurs sont sur place, les techniciens d'identification criminelle, les anthropologues, les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, les gendarmes aussi de la section de recherche de Toulouse qui sont chargés de l'enquête, donc ils vont tout noter, tout observer.
C'est là une scène de crime gelée, Dominique, c'est ça qu'il faut comprendre, ce champ.
C'est une scène de découverte du corps.
Découverte
la scène
du
de crime,
corps.
Elle est ailleurs.
D'accord.
Mais c'est une scène de découverte du corps, oui, elle est gelée, et puis les gendarmes vont filmer en 3 dimensions, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on découvre des ossements, vous savez, c'est comme les archéologues qu'on voyait en Égypte, avec des pinceaux. On nettoie, on enlève la poussière, la terre, et on prélève un morceau du squelette qu'on va retrouver. On le conserve et ensuite, plus tard, à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, à Pontoise, on va essayer de reconstituer ce corps pour essayer de le faire parler. Et en même temps, on filme en 3 dimensions. C'est-à-dire que plus tard, on pourra revenir sur la scène de crime dans une pièce où tout aura été filmé.
Et ça servira aux enquêteurs pour interpréter et tenter d'avancer dans l'enquête.
À la justice, on peut même projeter des éléments comme ça devant la cour d'assises.
Dominique, vous le précisiez, 2 fémurs ont pour le moment été retrouvés. Des informations au fil des heures nous parviennent. On va prendre du conditionnel et être précis et prudent. Selon la Dépêche et nos confrères de la Dépêche du Midi,
Frédéric Abélard.
Absolument. C'est un champ qui aujourd'hui ausculté de très près.
Absolument.
Et les informations qu'ils ont à leur disposition, c'est que c'est un terreau, un terreau de près de 3 mètres, qui a été visité, j'ai envie de dire, par Cédric Jubilard à l'époque.
Absolument.
De 3 mètres, qui ensuite, ce terreau, a été épandé dans un champ. Qu'est-ce que cela dit des futures fouilles, justement? Parce qu'épandé, il faut expliquer à nos téléspectateurs, c'est de la terre qui a été ensuite déversée sur le champ pour l'aider à être cultivée.
Alors moi, Marie, en plus d'être un journaliste police-justice, je suis un garçon de la campagne, toute ma famille a des fermes en Saône-et-Loire, je connais bien, j'ai grandi dans ces fermes, j'y suis allé. Donc c'est un champ, on a posé hier la question, avec Alice Darfeuille et Pauline Revenin, on a posé la question au maire de Mayotte, qui s'appelle Jean-Jacques Escoute, et on lui a dit, est-ce que ce terrain était entretenu? C'est important. Et il nous a répondu, oui. Entretenu, ça veut dire que si on y plante de l'orge, on y plante l'année suivante du blé, on y plante du colza, eh bien chaque année, il faut le labourer. Avant de planter, il faut labourer. Avant de moissonner, il faut labourer. Ça veut dire que s'il est entretenu, on va poser la question au propriétaire du terrain, est-ce que vous avez labouré votre terrain? Dans quel sens labourez-vous? Parce que ça veut dire qu'il peut avoir déplacé le corps. Et puis ensuite, cette information que nous donne Frédéric Abélard, qui connaît bien le dossier, qui est, visiblement, on l'a tous compris, proche des avocats, mais chacun de notre tour, journaliste, on est proche d'avocats dans des dossiers judiciaires, s'il donne ces informations, c'est quelqu'un lui a donné, et c'est quelqu'un qui était sur place. Donc, le corps serait dans un monticule de terreau. Donc, le terreau, c'est pour de l'épandage. On l'attrape avec une pelle agricole. On le met dans une machine qui sert à épandre. Derrière, il y a une vis sans fin. Le tracteur traîne cette machine et envoie de l'épandage dans le champ.
Mais vous écoutez, Dominique, ça paraît presque du ressort du miracle d'avoir retrouvé dès hier, sur indication de Cédric Jubilard, de premiers ossements. Parce que ça veut dire que possiblement, eh bien, ces ossements sont éparpillés
bien
partout
sûr.
Sur un champ, possiblement sur des mètres ou des kilomètres carrés.
Alors, c'est possible. Oui. Et je reviens à votre première question. Est-ce que ça va encore durer longtemps? Oui, ça va durer longtemps. Parce qu'il va falloir collecter dans un espace bien plus large qu'un simple espace où on déposerait un corps. Pour avoir une idée, on voit une tombe avec un corps. Eh bien, c'est pas si simple que ça. Là, les éléments du corps qu'on pourra retrouver, ils sont pas à un endroit précis, rectangulaire. Ils sont dans un champ. Et possiblement, ils ont été éparpillés par cette machine. Pardon pour ce détail, mais on parle criminologie.
Ouais, et c'est très important d'avoir votre expertise là-dessus. Qu'est-ce que l'on cherche? Que cherchent là aujourd'hui, ce matin, les enquêteurs? Ces deux fémurs ont été retrouvés. Ouais. Depuis 7 heures, les fouilles ont repris, on le redit. Comment ils procèdent?
Alors les enquêteurs, ils savent déjà si ces fémurs sont ceux de Delphine Jubillard. Parce que dans des fémurs, même aussi longtemps après, le fémur c'est l'os long, c'est l'os le plus long du corps. Et on y retrouve de l'ADN, même 5 ou 6 ans après. Donc ils savent déjà si ces fémurs sont bien ceux de Delphine Jubillard. Et il y a vraisemblablement très peu de doutes que ce soit quelqu'un d'autre que Delphine.
Ce que laissait d'ailleurs sous-entendre hier l'avocat de Cédric Jubillard.
Hein. Absolument. Donc maintenant, il faudrait retrouver d'autres éléments. Le bassin, des os importants. On retrouvera pas les os des mains, des pieds, évidemment. La tête, le crâne.
Peut-être un crâne, en effet.
On
oui.
peut découvrir sur un crâne une fracture ou une trace de coup qui mettra à mal la version donnée par Cédric Jubillard, que je connais pas exactement, mais en tout cas, ses avocats disent il n'a pas voulu... il n'a pas voulu donner la mort
ça,
à son épouse, évidemment.
Sur la stratégie, justement, de sa défense. Mais juste, vous disiez, je vous cite, les ossements parlent. On peut faire parler les os.
Évidemment.
C'est ça aussi à quoi vont s'attacher les prochaines analyses. Vous parlez de l'IRCGN à Pontoise. Là, encore une fois, certaines analyses peuvent aller vite pour déterminer si on est bien en présence du corps de Delphine Jubillard. Mais ensuite, on pourra déterminer si elle a été frappée, si elle a été étranglée. Tout ça, tous ces ossements vont aider à cela?
Bien sûr. Alors, lui, visiblement, dit qu'il l'aurait étouffée. C'est ce qu'il avait raconté plusieurs fois à Séverine, son ex-copine. Quelqu'un qui est étouffé, c'est pas quelqu'un qui reçoit un coup de couteau ou une balle. Une balle ou un coup de couteau peut laisser des traces sur les os ou pas. C'est-à-dire, si une balle passe entre deux côtes et ressort entre deux côtes, elle va perforer des organes vitaux. La personne va mourir, mais il y aura pas de traces de balle quand on retrouvera son squelette, parce que là on ne retrouve qu'un squelette. Il y a plus de parties molles. Les légistes parlent comme ça. Parties molles, ce sont les chairs, les organes. Donc, si la balle n'a pas touché le corps, il y a pas de traces. Le couteau peut avoir laissé, un couteau peut avoir laissé des traces de ripage sur une côte ou d'impact sur le bassin. Une pointe de couteau. Là, on n'est pas visiblement dans cet aspect-là, dans cette configuration. On est plus dans une configuration d'étouffement. Étouffement, donc ça, on l'a répété 10 fois, mais on va le dire très rapidement. Le larynx se casse. Ce petit os qui est ici, l'os hyoïde, qui est le seul os qui n'est pas rattaché au squelette, se casse. C'est un petit morceau de cartilage. Donc là, on le retrouvera jamais, parce qu'on est 5 ans et demi après. On ne pourra pas le savoir comme ça, si elle a été étouffée. On pourra le savoir peut-être par ses dents, si on avait la chance de retrouver sa mâchoire et ses dents, parce que les dents ont une coloration quand une personne est étouffée, parfois.
Parfois. Encore une fois, il faut le rappeler aussi, il a été jugé, Cédric Jubillard. Il y a un an, reconnu, coupable, condamné à 30 ans de réclusion criminelle. La justice, et en première instance, la Cour pénale, a décrit notamment le domicile des Jubillard comme une scène de crime. Mais, c'est important de le rappeler, sur les examens qui ont été faits de ses vêtements, de sa voiture, aucune trace de sang à l'époque retrouvée, aucune trace non plus de terre.
Bravo.
Quand on comprend ce qui possiblement s'est passé, ça veut dire quoi? Qu'il a sans doute pris beaucoup de précautions si aucune terre n'a été retrouvée sur lui à l'époque?
Alors, ça veut dire, s'il n'y a pas de trace dans la voiture, que Delphine Jubillard n'a pas été tuée avec un couteau ou une arme à feu parce qu'elle aurait saigné. Ça veut dire qu'elle a pu être étouffée. C'est une hypothèse. Ensuite, emporté dans un linceul, dans un drap, c'est ce qu'a fait Jonathan Daval quand il a tué sa femme Alexa, il l'a transporté dans un drap housse qu'il avait pris dans l'armoire de la maison, pas très malin parce que le drap manquait et on l'a retrouvé sur la scène où était le corps d'Alexia Daval. Donc Cédric Jubillard peut avoir emporté le corps dans la voiture sans qu'elle saigne, sans qu'elle laisse des traces dans cette voiture, et puis l'avoir déposé là où il dit l'avoir déposé, oui c'est vrai puisque c'est là qu'on la retrouve. Et ensuite être rentré sans avoir laissé dans la voiture des traces suspectes. Et puis je vous rappelle quand même que c'est le mari. Donc son ADN, on le trouve forcément dans la voiture de sa femme. C'est une voiture qu'il utilise de temps en temps. Donc la voiture n'a pas parlé, mais c'est quelque chose qui a été tenté. Les gendarmes ont démonté cette voiture, comme ils avaient démonté la voiture de Nordal Lelandais. Souvenez-vous, la trace de sang microscopique.
On qui a avait permis dans cette d'arriver voiture. En effet à, c'est qu'il a, à démontrer sa culpabilité.
Absolument. C'est qu'il a eu de la chance. C'est qu'il a eu de la chance. C'est que Cédric Jubillard a eu de la chance.
De la chance, mais désormais une forme de changement de stratégie.
Ouais.
J'aimerais qu'on remonte le fil. Des dénégations devant les autorités, devant la police, devant la cour criminelle, encore une fois. des aveux faits à une compagne rencontrée en prison, à des co-détenus, Séverine en effet, et puis un changement d'avocat en début d'année. Et cette lettre envoyée il y a 10 jours maintenant, et ces paroles prononcées devant les enquêteurs, devant la magistrate, qui l'amène donc sur ce champ pour découvrir ses aveux, en effet, total changement de stratégie. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Mais d'abord, est-ce que la suite aussi, ça va être le fait que Cédric Jubilard soit amené pour d'éventuelles reconstitutions, pour que l'enquête, encore une fois, avance? Ça aussi, c'est la suite, Dominique Rizet?
Moi, j'ai un scénario en tête. Bien sûr, il va y avoir une reconstitution. On va lui demander, on va aller sur la scène de crime. La scène de crime, c'est la maison. La maison dans laquelle on a retrouvé ses lunettes, cette branche de lunettes qui appartenait à Delphine Jubilard, cassée. Dont un expert dira, pour casser une lunette aussi solide, il faut vraiment une pression, quoi. C'est pas quelqu'un qui s'est assis sur les lunettes. Ça, c'est la scène de crime. Donc, on ira sur place. On va demander à Cédric Jubilard, qui sera là avec ses avocats, Pierre et Guy de Buisson. On va lui dire, est-ce que vous acceptez de participer à la reconstitution? Oui, non. Si vous participez, refaites les gestes. Soit il y aura un mannequin, soit il y aura une femme gendarme de la taille de Delphine Jubilard. On lui dira, montrez-nous comment vous l'avez étranglée. Est-ce qu'il refera ce fameux geste qu'il avait raconté à Séverine, de passer son bras derrière
le clé de bras? Juste, Dominique, est-ce que de votre point de vue, on peut pas lire dans l'avenir, est-ce qu'il va se passer, mais au vu du tournant que Cédric Jubilard et sa défense a opéré, ça signe le fait d'une plus grande collaboration et donc d'une participation à une reconstitution.
Marie, il va participer, bien sûr qu'il va participer à la reconstitution, il est sur le chemin des aveux et de la vérité. Donc oui, il va participer à la reconstitution, il va refaire les gestes, il va raconter les gestes qu'il a fait ce soir-là, qu'il a posé ce soir-là, les actes qu'il a posés, mais ça sera sa seule version. Et sa version, on imagine comment il va jouer la reconstitution. Premier temps de la reconstitution, dans la maison. Deuxième temps de la reconstitution, et là ça va être intéressant, la voiture, vous êtes allé sur place, montrez-nous, vous démarrez la voiture, vous descendez la rue sans le moteur, vous démarrez avec le moteur un peu plus bas, vous roulez sans les phares, c'est une vieille voiture. Les voitures d'aujourd'hui, quand on met le contact, tout s'allume.
En plein confinement, on le précise aussi. On est en décembre 2020.
Absolument. Juste,
ce sont des
fait 10 kilomètres sans phare.
Oui.
Et il dit, j'arrive en pleine nuit et j'arrive dans un endroit et je vais enterrer le corps. Et là, ça va être intéressant. Parce que Marie, imaginez que la reconstitution, le procès n'aura pas lieu le 21 septembre.
J'y viens, justement. Parce qu'en effet, il y a le procès en appel. Le 21 septembre. Mais que joue et pourquoi aujourd'hui? En langage policier, on dit quoi? Il passe à table. Pourquoi il va si loin dans ses aveux? C'est parce qu'il y a ce procès en appel aussi le 21 septembre. Ses avocats nous disent hier soir, ça serait grotesque que cette date soit maintenue. De votre point de vue aussi, c'est impossible, ces délais sont intenables au vu des actes d'enquête qui vont devoir être menés.
Oui, il y a plein de choses à faire. L'autopsie, l'analyse de l'autopsie, la toxicologie, est-ce qu'elle était sous médicaments? Ensuite, il va falloir organiser la reconstitution. Au mois d'août, la justice est en vacances. Comme tout le monde, on est tous en vacances et c'est normal. Et puis ensuite, il va falloir peut-être refaire des expertises psychiatriques, psychologiques.
Et la temporalité a son importance parce que vous le soulignez, on est au mois de décembre. Au mois de décembre, il fait froid et un terreau, en tout cas de la terre, n'a peut-être pas la même apparente et aspect qu'au mois de juin. Ça aussi, ça a son importance pour les enquêteurs et la défense, j'imagine.
Ce que peuvent faire les magistrats, c'est dire, quand on fait une reconstitution, il faut que ce soit à peu près à la même époque, dans les mêmes conditions météo, à la même heure du jour ou de la nuit, etc. Et donc, là, imaginez, pas de procès le 21 septembre, et les juges disent, tiens, la reconstitution, on va la faire, la deuxième partie de la reconstitution. Vous prenez votre voiture, vous emmenez le corps sur place, vous dites que vous avez gratté la terre, et on va faire ça le 15 décembre. On va regarder la météo du 15 décembre, la température, on va voir si c'est la même température qu'en 2020, mais on le sait déjà, en 2020 on sait quelle était la température. Imaginez qu'il fasse 4 degrés, et on va lui dire, monsieur Jubilard, vous nous dites, c'est Frédéric Abélard de La Dépêche qui le dit ce matin, vous avez gratté la terre, ok, allez-y gratter la terre le 15 décembre, et il y avait une cavité, vous avez mis le corps de votre femme dedans, remettez la terre par-dessus. Je suis pas sûr que le 15 décembre, dans une terre comme ça, ça va être très facile de refaire les mêmes gestes.
Je disais, qu'est-ce qu'il se joue et pourquoi cette nouvelle stratégie de Cédric Jubilard, de sa défense également, et des mots très durs de sa défense. Hier, Maître de Buisson disait, les enquêteurs sont passés à côté de choses énormes dans les 48 heures qui ont suivi la disparition de Delphine. Encore une fois, on est à une quinzaine de kilomètres de leur domicile. Six ans plus tard, cette zone n'a pas été fouillée par les gendarmes. Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça se comprend? Encore une fois, vous connaissez ces affaires par cœur. Ou est-ce que vous y voyez une forme de défaillance, là aussi?
Non. Ça s'explique. C'est quand même très très loin, 10-15 kilomètres. Et puis c'est un rayon, hein. On leur dit pas, à 10 kilomètres dans cette direction-là, vous avez le corps de Delphine Jubilard. C'est dans un rayon, donc ils ont cherché. Mais évidemment, ce qui est classique a été fait, les points d'eau, les cimetières, même j'ai regardé dans les cimetières, les cavités, etc. Mais hier, quelqu'un disait, je sais plus, quelqu'un disait, tiens, je prends cet objet-là et je vais le cacher à 10 kilomètres. Je dis à 10 kilomètres d'ici, essayez de le retrouver. Mmh. Bon, donc c'est très compliqué. C'est pas que le boulot n'a pas été fait. Moi, je pense que la botte secrète des avocats, quand ils disent, voilà, il y a quelque chose, le travail n'a pas été fait dans les 48 heures, c'est le téléphone portable de Delphine Jubilard qui n'a jamais été retrouvé. Mmh. Donc,
et là aussi, les enquêteurs peuvent aussi.
Il a dit, Cédric Jubilard a dit forcément aux magistrats et à ses avocats où était ce téléphone portable, ce qu'il en avait fait, il est obligé de le dire. Mmh. Il avoue, il doit tout avouer. Donc, il doit dire où est ce téléphone. Et j'imagine que là, quand on va savoir où est le téléphone, ça va peut-être poser un problème à l'enquête de la gendarmerie.
Dominique Rizet, je le disais en introduction de cette interview, on pense à la famille, aux enfants.
Bien sûr.
Louis, 11 ans aujourd'hui, le petit garçon, a vraisemblablement aussi, via ses avocats, demandé une dernière fois à ce que son père parle et dise où était sa maman. Mm-hmm. Peut-être que ça a joué aussi peut-être. Sur la psychologie de Cédric Jubilard. Qu'est-ce que ça change aussi? Une fois que ces analyses auront été faites, les avocats de la famille disent on va pouvoir enfin, sans enlever le drame et l'horreur de ce qui s'est passé, avoir une sépulture. C'est ça aussi qui va pouvoir avoir lieu et se dérouler dans les prochains mois.
Ça, c'est le chapitre manquant de cette affaire. Cette affaire, c'est une affaire dans le désordre, une affaire criminelle dans le désordre. Le chapitre 1, elle disparaît. Le chapitre 2... Son mari est condamné, sans aveu, sans scène de crime, sans corps. Chapitre 3, il est en prison et il fait appel. Chapitre 5, et donc il avoue, il emmène les enquêteurs sur les lieux. On peut écrire le chapitre suivant, un nouveau procès va avoir lieu, manquent les obsèques. Entre maintenant et le prochain procès, il va y avoir les obsèques de Delphine Jubilard. On va les suivre sur BFM TV. On sait déjà comment ça va se passer. On va voir les enfants qui vont marcher. Bien sûr. Va voir les amis IES de Delphine qui se sont tant battus pour la vérité. Cette pancarte qui est posée devant chez eux, aidez-nous à retrouver Delphine,
elle n'existera plus.
Ouais. On va l'enlever. Et là, il va y avoir des avocats qui vont dire si ce chapitre 5, les obsèques existent, c'est parce que celui-ci, notre client, Cédric Jubilard, a avoué et c'est grâce à lui que Delphine Jubilard a une sépulture.
Et là, un mot de conclusion, juste Dominique.
Ça peut changer les choses.
Pourquoi cette affaire fascine tant? Difficile à dire en quelques secondes.
Moi, je vous dis parce que c'est une affaire dans le désordre. Une affaire dans le désordre, c'est une espèce de mécano criminel. Dans le désordre, comme l'esprit de Cédric Jubilard, comme le monde dans lequel il vivait, comme cette baraque, même pas finie, déconstruite. Cette vie qu'il imposait à Delphine Jubilard, elle n'en voulait plus. Elle voulait plus vivre avec lui. C'est une histoire d'amour qui se termine mal. C'est une femme qui veut quitter son mari, qui a une nouvelle vie, un nouvel amour. Et lui la tue parce qu'il veut pas la laisser partir. Il considère qu'elle lui appartient.
Merci beaucoup, Dominique Rizet, d'avoir été avec nous ce matin. Il est 8h47 et vous êtes bien toujours sur BFM TV et RMC.
Merci Marie Chantré. Dans un instant sur RMC, le choix de la rédaction. Les vendanges de plus en plus tôt et cette année encore, ça pose d'énormes soucis de recrutement, notamment pour les saisonniers. Puis avant le match pour la troisième place, la petite finale demain France-Angleterre, les dernières infos sur la Coupe du Monde. À tout de suite.
RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 9h10, vous êtes bien sûr à RMC. Les GG arrivent après le journal de 9h. On va d'abord prendre des nouvelles de la Coupe du Monde, le mondial d'Antoine avec Antoine Salva. Bonjour Antoine.
Bonjour Sébastien.
Dans un instant, le match des perdants, c'est demain avec les Bleus. Mais avant cela, on va partir d'abord faire les vendanges avec vous, Vincent Chevalier. Bonjour Vincent.
Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde.
C'est le choix de la rédaction ce matin. Vous êtes le correspondant RMC dans la région lyonnaise. Les récoltes seront certainement encore en avance cette année. Avec la météo des derniers mois, les grappes de raisin ont pris de l'avance dans leur maturité. On parle de début août, une précocité qui étonne même les viticulteurs, là, Vincent.
Eh oui, accroupi au milieu de ses vignes dans les coteaux du Lyonnais, Pierre Tollet saisit une grappe sur un cep d'un cépage gamay, une grappe multicolore, signe de la véraison, ce moment de l'année où les raisins mûrissent.
À l'intérieur de cette grappe, on a des grappes à différents stades de développement, avec justement certaines grappes qui commencent à prendre cette couleur, on va dire, légèrement bleutée, enfin violet-bleu, qui est en fait la marque que le raisin devient mature et bientôt prêt à être récolté.
Et traditionnellement, les vendanges débutent 45 jours environ après la véraison, un stade habituellement attendu ici fin juillet.
Là aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près une quinzaine de jours d'avance sur une année, on va dire classique, avec la particularité cette année de subir de grosses pressions par rapport à la chaleur. Voilà, ce qui fait que voilà le sec aussi commence à arriver gentiment, donc ça serait bien d'avoir un petit peu d'eau.
Effectivement, dans ses vignes, il n'a pas plu depuis début juin.
Une telle avance, Vincent, c'est du jamais vu pour la plupart de ces professionnels.
Effectivement, Basile Ricaume peut en témoigner pour ce viticulteur du Gard. Les vendanges sont pour l'instant prévues entre le 5 et le 10 août. En 25 ans de métier, c'est la première fois qu'il assiste à une telle précocité et ça pose plusieurs problèmes.
Toute la partie logistique, pour nous, ça change parce qu'il faut prévoir, il faut anticiper. Il faut également aussi, pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre des jours de congé et partir plus tôt. Ça paraît rigolo que dit comme ça, mais c'est une vraie réorganisation dans les entreprises. Il faut préparer le matériel à la vigne, il faut préparer le matériel à la cave. Donc ça, c'est la partie logistique, mais je dirais c'est la moins perturbante. La plus perturbante, c'est ce qu'on appelle la maturité phénolique de la vigne. C'est-à-dire, est-ce que la vigne, le cycle végétatif s'est fait vite? Est-ce qu'on va arriver à avoir des raisins suffisamment mûrs pour arriver à faire des vins suffisamment qualitatifs? Est-ce que malgré cette vitesse-là, le cycle va se finir jusqu'au bout?
Ah oui, car si les très fortes chaleurs reviennent, la vigne pourrait faire un blocage, arrêter son évolution pour se protéger, ce qui, pour le coup, décalerait le début des vendanges.
Ouais, difficile dans ces conditions de recruter, surtout quand la main-d'œuvre se fait déjà désirer.
Oui, dans les vignes, les habitués se font de plus en plus rares. Il faut donc recruter plus. Exemple, dans le Jura, l'association pour l'emploi dans le milieu rural, Soelis, cherchait 450 personnes l'année dernière contre 600 cette année. Alors, seul espoir, attirer des étudiants, pas encore pris par la rentrée scolaire de septembre. Et encore une fois, beaucoup de domaines s'appuieront sur la main-d'œuvre étrangère. Dans certaines régions, elle peut représenter la moitié des vendangeurs.
Alors, on l'a compris, cette année est particulière, Vincent. Mais la précocité des vendanges n'est pas tout à fait surprenante en fait.
Non, effectivement, depuis les années 80, le raisin est récolté de plus en plus tôt, 30 jours plus tôt qu'il y a 30 ans dans certaines parcelles. Résultat du réchauffement climatique qui accélère le processus de développement de la vigne. Il faudra donc s'y habituer et surtout s'adapter, selon Jean-Marc Touzard, directeur de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
C'est le changement climatique plus globalement qui remet en cause les relations au terroir, et donc la relation entre un terroir et la qualité d'un vin. Et donc ça suppose de s'adapter, changer de cépage, de mode de conduite, de mode de technique de vinification, d'organisation des vignobles dans l'espace, en changeant les parcelles, en choisissant des parcelles moins exposées au soleil, par exemple.
Adaptation indispensable car au-delà de la crise climatique, la viticulture traverse aussi une crise commerciale. La consommation mondiale de vin ne cesse de diminuer, moins 14% entre 2018 et 2025.
Des vendanges de plus en plus précoces. Le choix de la rédaction ce matin sur RMC avec Vincent Chevalier, correspondant RMC dans la région lyonnaise. Merci beaucoup Vincent. Allez, on va parler foot. La France doit sauver l'honneur.
RMC, le mondial d'Antoine.
Le mondial d'Antoine, Antoine Salva, journaliste RMC Sport. Les Bleus doivent donc finir le travail demain à l'occasion de cette petite finale.
Tout à fait Sébastien, à 23h samedi, ils affronteront l'Angleterre à Miami. Objectif, monter sur le podium de ce mondial comme en 1958 et en 1986. Et pas évident de se remobiliser comme le disait Ryan Cherki après l'élimination face à l'Espagne mardi soir.
On verra, mais pour l'instant on n'a qu'une seule envie, c'est oublier ce qui vient de se passer. Parce que c'est dur, c'est très très dur.
Et oui, se remobiliser, il le faudra bien car il y a un match à jouer, certes bien loin du prestige d'une finale. Alors avec quels joueurs sur le terrain? Ceux qui ont l'envie, on pense à Mbappé courant après le titre de meilleur buteur du mondial, ceux qui ont peu joué, Gusto, Lacroix ou Akliouche, ou ceux qui n'ont pas joué du tout, les champions du monde 2018, N'Golo Kanté et Lucas Hernandez. Une certitude, ce ne sera pas le match des coiffeurs et un décrassage si on se fie à la décision du sélectionneur de ne pas libérer ses joueurs la nuit dernière dans les rues de Miami. Vous l'aurez compris, Didier Deschamps veut gagner.
Oui. Et c'est pas anodin, hein, parce que ce sera son dernier match à la tête des Bleus.
Tout à fait, après 14 ans, la Dèche va se retirer sur son 187e match dans le survêt de sélectionneur. Un record en France, longtemps critiqué pour ses principes de jeu restrictifs et un jeu peu emballant. Malgré les talents à disposition, l'ancien capitaine a fini par trouver un peu plus de reconnaissance durant ce mondial, en assumant par exemple d'aligner plus de joueurs offensifs. Dimanche, il pourra se retourner sur une aventure riche en constance, mais finalement peu en trophées. Certes, champion du monde en 2018 et vainqueur de la Ligue des Nations en 2021. Il aura échoué en finale de l'Euro 2016 et en finale du Mondial 2022.
Et forcément, Antoine, on pense à la suite, à l'arrivée du nouveau boss, quand il va prendre la relève.
Et oui, Sébastien, le successeur tout désigné de Didier Deschamps, vous le connaissez très bien, un héros que vous avez vu de nombreuses fois à la télé quand vous étiez petit.
Son nom, il le signe à la pointe de l'épée.
Non, non, ce n'est pas Zorro, Bernardo, mais bien Zizou, annoncé depuis des mois, attendu depuis des années. Et l'évocation du nom de Zinedine Zidane fait frétiller tout le foot français. Triple vainqueur de la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur du Real. Le champion du monde 98 pourrait être officiellement nommé dès la semaine prochaine par le président de la fédération, Philippe Diallo. Son arrivée est d'ailleurs préparée dans le plus grand des secrets. Et du haut de son immense carrière, il aura certainement quelques conseils avisés à délivrer à ses futurs joueurs.
C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours, chaussettes, chaussures, puis la jambe droite.
Revenons à cette petite finale face aux Français. Les Anglais vont eux aussi devoir se relever après l'élimination face à l'Argentine.
Et ce n'est clairement pas la joie non plus chez nos amis britanniques. Les Anglais rêvaient d'un titre après le dernier glané en 1966. Les joueurs de Thomas Tuchel auront un jour de moins pour se remettre de cette défaite cruelle. Et le sélectionneur est bien conscient de la difficulté.
Aucun de nos joueurs ou des joueurs de la France n'a envie de jouer ce match. Ils ont tous envie de jouer la finale. Ils veulent jouer pour remporter la Coupe du Monde. Mais c'est comme ça.
Mais eux aussi auront à cœur d'achever cette compétition de la meilleure des manières, sachant que leur capitaine Harry Kane va fêter ses 33 ans dans quelques jours et il pourrait disputer son dernier match de Coupe du Monde avec la sélection anglaise.
Antoine Salva, merci. France-Angleterre.
Vous l'avez pas assez entendu. Hein.
Ah oui, c'est ça.
Allez, c'est la dernière, hein. Je vous le promets.
23h, le coup d'envoi samedi soir. Demain, donc, ce sera à suivre en direct sur RMC en intégralité. RMC Radio officielle de cette Coupe du Monde en direct des États-Unis. Demain, de 20h à 3h du matin. Allez, les GG, dans un instant, quel est le programme, Olivier Truchot?
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les grandes gueules arrivent. Abel Boyi, l'éducateur. Emmanuel De Villiers, l'entrepreneur. Sandrine Pégan, l'avocate. On va revenir notamment sur l'affaire Jubilard, avec la découverte d'une partie du corps de Delphine, sur indication de celui qui l'a tué, Cédric Jubilard. Alors Cédric Jubilard est très coopératif. Est-ce que vous croyez à cette nouvelle sincérité ou est-ce que, une fois de plus, c'est de la manipulation? On en parlera dans les grandes gueules avec vous au 32-16.